lire à l'écran, qu'est-ce que ça change? Il me semble que la syntaxe est ici d'une correction médiane. À l'ANRF, il y a quelques années, nous eussions peut-être lu « Que cela change-t-il » et aujourd'hui en ligne, nous lirions sans doute « Ça change quoi ?». L'une des questions qu'il nous faudra ici continuer de forer, en dépassant, rassurez-vous, le sens commun que j'ai l'honneur d'incarner cet après-midi, s'avère d'ordre stylistique. Y a-t-il à l'œuvre manière, façon, procédé, tempérament, idiosyncrasie de l'écriture électronique capable ou non d'influer, d'enrichir, de féconder, de transformer, de contaminer l'art de coucher les mots? Et serait-ce alors une sorte de Klondike éditorial avec ruée vers ses pépites de la part de Gali Grasseul et compagnie? Ou bien les grandes maisons classiques considèrent-elles ces pans entiers, voire ces continents d'écriture en ligne, comme, vous savez, l'exonartex dans ces églises orthodoxes, c'est ce qui maintient à l'écart les fidèles, un rien suspect, à l'écart du Saint des Saints et de l'iconostase. Bref, les blogs, forums et tutti quanti ne sont-ils qu'une fourrière à jamais à l'écart des aires de stationnement de la littérature officialisée en vertu d'un système de développement séparé bien tempéré. D'autre part et surtout, avec l'écran, quid de la dialectique entre le producteur et le consommateur, l'éditeur et le récepteur? Jadis, sur le cahier, l'intime s'immisçait en dépit d'un public. Désormais, sur l'écran, l'intime s'expose presque en dépit de l'auteur soi-même. Voilà en tout cas une piste que les intervenants de cette table ronde auront le loisir d'emprunter, d'ignorer ou de contester. Et comme nous n'avons rien d'une société d'adoration mutuelle, pour éviter donc le moindre rond consensuel, je voudrais d'emblée susciter quelques pavés dans la mare plutôt qu'une flopée de bouteilles à la mer. Je voudrais que Richard Figuier puis Sylvie Gillet donnent leur « là », peut-être parfois grinçant, avant que Philippe de Jonquière, puis Laure Limongie, alors entre nous soit dit, ils se sont consultés au cours d'une réunion fractionniste, comme on disait il y a 50 ans, j'avais appris sur le site dit celui, désordre.net. Donc avant que Phil et Laure, ça c'est du style électronique, ne répondent, sans doute sous forme d'une défense et illustration problématisée. Il était prévu qu'après que nous aurons entendu ces quatre personnes, Philippe le Jeune, considéré comme la plaque tournante et le coryphée de cette journée, il était prévu qu'il intervienne, mais il a dû partir pour une raison déchirante. Donc nous n'entendrons pas Philippe le Jeune, et c'est à ce moment-là que de toute façon le débat reprendra sur cette estrade, que les gens se répondront, et qu'ensuite il pourra, me semble-t-il, ce débat gagner la salle en une espèce de houle d'hyperparole qui seul, me semble-t-il, peut rendre compte de l'hypertexte. Mais je voudrais d'abord me tourner vers Richard Figuier. Ah non, vous n'avez pas commencé à déranger mon plan de table. C'est vous en premier, nonobstant la qualité de dame immédiatement à ma gauche. Parce que je crois que... Non, je crois que ça serait bien précisément que vous commenciez... Alors je rappelle que vous avez dirigé le département des sciences humaines chez Albin Michel, vous avez ensuite exercé vos talents au Seuil. Mais là, présentement, j'aimerais que vous puissiez vous exposer sur cette sorte d'exposition universelle que constitue l'intime électronique. Et je pense que là, vous êtes... l'homme de la situation prêt à nous dévoiler votre vision des choses.
Non, en réalité, moi, je, sur ce thème, je n'ai que des questions parce que je suis surtout un éditeur traditionnel, papier. Et je n'ai que des questions devant, en effet, une situation qui est mouvante, qui est... Mais on sent qu'on est devant quelque chose, un bouleversement quand même, je ne sais pas s'il est civilisationnel, mais en tout cas un bouleversement important. Alors moi, je voudrais... On a parlé ce matin de... Je vais essayer d'être très bref. On a parlé ce matin de l'étymologie du mot intime. Et je crois que c'est une des clés de notre problème. On a parlé tout à l'heure des difficultés à savoir ce que c'était qu'intime. Je crois que c'est le problème de l'étymologie est un point clé de notre débat. Il y a dans l'intime une sorte d'ambiguïté qui est dans le mot lui-même, dans l'origine du mot lui-même. Puisque si on reprend le latin, on entend dans le mot intime le verbe latin intimere, hein, et qui est devenu passé en français dans le verbe intimer. Et intimer, c'est donner un ordre. Alors il y a, et intimere précisément, ça veut dire exposer, ça veut dire montrer. Alors que l'intimus, c'est ce qui est le fond du fond. Donc on rejoint l'ambiguïté de tout à l'heure, c'est-à-dire le fond du fond, et en même temps, comme s'il y avait une sorte de nécessité, une intimation d'exposer le fond du fond. Donc l'intérieur, l'intériorité, et Dieu sait que c'est en Occident un thème, il y a la fameuse phrase de Saint-Augustin, c'est bien avant Saint-Augustin bien entendu, c'est vraiment l'intériorité, c'est vraiment un thème récurrent de l'Occident. D'autres civilisations s'interrogent sur le moi comme illusion. Nous, occidentaux, nous reposons sur un sujet, hein, l'homme est un sujet qui a une profondeur, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques sur l'illusion du moi ou pas, mais donc c'est une des clés de nos problèmes. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il me semble que le temps du journal papier, du journal secret, au fond c'était une sorte de... on gardait le secret... On écrivait pour soi-même, on l'a dit tout à l'heure, pour la page blanche, qui est un écran d'une certaine manière, mais jouait comme une sorte de miroir dans lequel on allait se refléter. Donc on créait une sorte d'alter ego fictionnel pour pouvoir mieux se regarder soi-même, comme disait Zaïs dans le texte cité tout à l'heure, discerner. Hein, discerner, c'est mettre à part le secret, c'est essayer de voir clair en soi-même. Sachant que moi, je peux rien révéler de moi-même d'une certaine manière, parce que je suis moi-même une énigme pour moi-même. Donc ça, c'est fondamental, je crois. Or, on est passé d'un paradigme de l'énigme, si vous voulez, que je suis pour moi-même, donc je vais écrire un journal pour tenter d'éclairer cette énigme. Et alors là, c'est non seulement le journal, la pratique du journal, mais c'est aussi la littérature. Et ce matin, on aurait pu évoquer les liens entre journal intime et littérature. Je pense à Virginia Woolf. Mrs. Dalloway, c'est une sorte de journal sur une journée. Ulysse de Joyce, c'est une sorte de journal, etc. Bon, on voit bien le rapport qu'il y a entre l'écriture, qui est un médium qui permet d'éclairer, parce que permet d'objectiver, d'exposer justement, mais pour soi-même, le moi qui est une énigme. Alors on est passé de ce paradigme, il me semble, avec Internet, à une sorte de paradigme de l'exposition. Et alors on voit apparaître ce personnage qui n'est pas un voyeur, le voyeur voit sans être vu. J'ai bien aimé votre expression de Balmaski, parce que c'est vraiment ça, c'est l'exposeur. L'exposeur qui s'expose sans s'exposer lui-même, d'une certaine manière, parce que protégé par le pseudo, alors on sait depuis Kierkegaard la logique très complexe du pseudo, qui est en effet voilement et dévoilement, enfin on ne va pas rentrer non plus là-dedans, mais il y a une sorte de... Alors avec le Web 2, dont on parle beaucoup, et les podcasts, alors là j'ai trouvé cette expression dans Le Monde, dans le journal Le Monde, à propos du Web 2, justement l'expression de « broadcast yourself », hein, alors c'est ça exactement, c'est se diffuser soi-même, dans l'espoir que les autres vont vous renvoyer quelque chose de vous-même. Au fond, je vois la pratique du blog, du journal blogué, la pulsion blogique, si vous me permettez cette expression, qui est calquée sur la pulsion scopique freudienne, la pulsion blogique, c'est au fond, dites-moi qui je suis, j'en ai une validité, mais peut-être vous en avez, alors je vais vous exposer, alors même je vais me mettre en image, je vais vous montrer ce que je suis, vous allez me dire, renvoyer ce que je suis. Donc une sorte de... J'ai perdu mon idée, évidemment. Une sorte d'échange avec l'autre, ah voilà, pour sauvegarder là, non pas un moi qui est une énigme, mais un moi qui se veut pluriel. Au fond, c'est le loup des steppes. Je suis le moi est pluriel. On ne sait pas au fond s'il y en a un. Alors on pourrait s'interroger là sur la sortie au fond du sujet, au sens où tout l'Occident a été marqué par cette, en tout cas à partir du christianisme, de cette notion de sujet directement en lien avec Dieu, etc. Bon, Dieu garantissant au sujet, bon, je ne vais pas relire Descartes, mais Dieu garantissant au sujet sa subjectivité, etc. Au fond, ne sortons pas de là, est-ce qu'on ne sort pas de je vais parler comme l'intitulé du débat, ne sortons pas de ce paradigme, au fond, vers un paradigme de la pluralité, le moi est pluriel, et puis c'est très bien comme ça, et puis je suis éclaté, je ne suis ce que je ne suis pas, et je suis ce que les autres veulent que je sois, etc. Bon, d'où la difficulté d'une sorte de disparition de l'intime au profit d'une logique de zoo, au fond, le zoo c'est l'exposition aussi de musée, le musée c'est l'exposition de supermarché, c'est l'exposition aussi de tout ce qu'il y a à consommer. Donc une sorte de... Et le paradigme de l'intimité est parallèle au paradigme de l'exposition qu'on retrouve donc dans ces structures modernes qui sont le zoo, le musée, le supermarché, etc. Voilà. Mais c'est des questions, à vrai dire. J'ai aucune certitude. Voilà.
À moi de prolonger ce que vous avez commencé de dire par une question, Jean Figuier. Est-ce que vous avez l'impression que la notion d'intimité a vécu ce que vivent les notions, enfin, une espèce d'espace de, mettons, de la Révolution française à la Révolution électronique. Ce serait une sorte de parenthèse qu'on pourrait rapidement qualifier de bourgeois.
Oui, je crois que le rapport à soi a une histoire, évidemment, le soi, le concept de soi, de moi, etc., tout ça a une histoire, pas simplement une histoire langagière, mais une histoire sociale, une histoire d'anthropologie, des pratiques, etc. On a parlé tout à l'heure de l'écriture mystique, bon, Dieu sait qu'elle a la confession, toutes ces procédures techniques analysées par Foucault ont montré que le soi était une construction, donc on est peut-être en train de quitter cette construction-là pour une autre. Laquelle, ça, je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Est-ce que c'est la logique de l'homme ordinaire? Nous sommes tous des hommes, hein, vous savez, la fameuse phrase des mots de Sartre, un homme qui vaut tous et qui fait de tous les hommes, etc. Bon, est-ce qu'on est dans la logique de l'homme ordinaire, c'est-à-dire qui se dissout, est-ce qu'on est dans l'apparition de l'unique qui est cirque gardien, hein, vous savez, l'unique, bon, je ne sais pas, moi j'essaie d'analyser ça comme ça, comme une mutation, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et la littérature est contaminée on parlait tout à l'heure de Christine Angot, on voit bien que chez Annie Ernaux, etc. Bon, perpétuellement, c'est une sorte d'exposition des choses les plus je pense à un livre d'Annie Ernaux racontant ses malheurs. On voit bien que là, il y a une sorte de pulsion qui c'est pas Proust qui construit cette grande machine d'éclairage de soi qui est la recherche, mais qui dit, c'est une entreprise dogmatique, dit Proust à Rivière, une entreprise dogmatique de recherche de la vérité. Et il emploie un terme qui est le terme de classique employé au XVIIe siècle, les traités de recherche de la vérité, de Descartes à... etc., à Malebranche. Donc il est dans un univers classique, on a montré l'influence du XVIIe siècle sur Proust, il est dans un univers classique. Là on n'est plus du tout dans cet univers, me semble-t-il, mais encore une fois je ne sais pas ce qui se passe, où on est dans un univers de la pluralité. Je ne sais pas comment le dire autrement, je ne sais pas si nos amis blogueurs le confirmeront.
On le verra effectivement tout à l'heure, mais je tiens à dire que j'avais une sorte d'illumination en vous entendant parler d'ordre et d'injonction de la part d'un exposeur protégé, qu'on pourrait presque qualifier de...
Non, lui-même est sous une injonction de s'exposer.
Effectivement.
Dominé par une sorte de...
Mais du coup, quand vous avez dit ça, je suis tourné vers ma voisine de droite, qui s'appelle Laure Limongi, en disant, mais est-ce que vous avez votre patronyme et un pseudonyme, hein, parce que j'étais persuadé que c'était cette injonction, Limongi, mon journal. Mais non. Donc ça ne va pas si loin. En revanche, j'aimerais maintenant, pour peut-être enfoncer dans un cuir fort épais, enfoncer un peu plus le fer, me tourner vers vous, Sylvie Gillet, parce que on a entendu tout à l'heure deux communications très intéressantes sur cette... ferveur tâtonnante, pour parler un peu comme Pierre Jean Jouve, d'une part ce plan ternaire magnifique, hein, mimétisme, innovation, métissage, et puis d'autre part sur cette aporie foisonnante. Et donc je me tourne vers vous parce que vous êtes à la fois, vous êtes éditrice actuellement chez Calvin et Lévy, vous avez travaillé chez Belin, Et vous êtes à la fois une sorte de curiosité aux aguets, et puis en même temps, un garde-barrière, hein, l'édition. Et j'imagine que peut-être sans aucune pitié, vous avez un regard acéré, diront certains, sagace, diront les autres, sur ce monde que nous sommes en train de glorifier à travers même ces tâtonnements. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites?
Je serais moins érudite que Richard Filier. Je serais plus concrète et en fait ce serait plutôt aux éditeurs d'écouter les blogueurs, d'être très très attentif à tous les usages du net. Mais en l'occurrence je suis éditrice de matière solide, à savoir le livre, donc je ne vais pas me mettre dans vos têtes. Je vais vous dire en quelques mots mon intimité d'éditrice, de livres et mon rapport à Internet quand même, parce que je ne suis pas à ce point réac et déconnectée. Parce que vous remarquez quand même que Internet clive les sociétés. On a l'impression que d'un côté, on a ceux qui sont à la page, ceux qui sont à la page numérique et ceux qui sont restés à la page papier. En fait, je trouve que c'est assez tentant d'opposer deux blocs. D'un côté, la vague, les créatifs, ce que l'on ne peut pas cantonner, retenir, ce qui est libre, ce qui est gratuit. Et de l'autre, les conservateurs, les marchands, les has-beens, ceux qui profitent d'un système qui a vraiment fait son temps. Donc, moi, je voudrais revenir à des choses un peu plus simples, un peu plus primitives. L'apparition d'Internet, je l'ai vécu, mais comme beaucoup d'entre vous, peu à peu, dans mon univers professionnel, hein, ça a commencé par le Minitel. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait d'Electre et du Minitel. Et aujourd'hui, effectivement, nous consultons, je fais mes recherches bibliographiques sur le site de la BNF et, ou sur des sites étrangers. Tout simplement pour vous dire que c'est Internet, c'est-à-dire les recherches sur Internet, par des moteurs de recherche, par des sites spécialisés, n'ont rien retiré à mon activité. Ils ont ajouté un outil. Tout comme vous vous inquiétiez de ce qu'allaient pouvoir faire les têtes blondes d'Internet, c'est aussi une vraie question. Que vont faire les journalistes, les éditeurs d'Internet aussi? Je veux dire, ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Je pourrais vous donner des exemples, mais les vérifications sur Internet peuvent être catastrophiques quand elles ne sont pas raisonnées. Et je vous remercie vraiment d'avoir redonné un certain nombre de sites tout à fait utiles, et que ce soit la TILF, le dictionnaire des synonymes de Caen, c'est vraiment des outils très très précieux. Alors, Internet pour un éditeur, c'est quelque chose, comme dit Richard, on sent que quelque chose se passe, qu'il faut en être, on ne sait pas très bien comment. La plupart des maisons d'édition ont un site internet, et c'est d'ailleurs plus commode pour une maison d'édition d'avoir un site internet qu'un catalogue papier. De plus en plus de maisons d'édition laissent tomber les catalogues papier et incrémentent les sites internet. Alors, si vous allez, j'aurais pu vous faire tout un échantillon, si vous allez sur les différents sites des maisons d'édition, ils sont pauvres, ils sont ringards, en général, ils ne rajoutent rien au catalogue papier, il n'y a aucune interactivité, ce qui est parfois intéressant, c'est qu'il y a quelques liens, donc on voit un peu quels sont les alliés d'éditeurs, quels sont ces, ses alliés, ceux avec lesquels il chemine. Voilà. Donc, parfois, mais très peu souvent, on renvoie à des sites d'auteurs. Et ça, c'est assez curieux, à des sites d'écrivains établis. Ce qui est assez curieux, c'est de constater qu'il n'y a pas tant de sites d'écrivains que ça. Moi, j'en connais pas beaucoup. Et je crois qu'il y a les quelques écrivains qui se sont essayés à des sites ont assez vite arrêté parce qu'ils ont été débordés à la fois par les mises à jour qu'ils devaient opérer et par les messages qu'ils recevaient qui les incommodaient ou auxquels ils ne parvenaient pas à faire face. Donc les éditeurs ont des sites qui sont simplement des sites qui récapitulent le fond, les nouveautés. Il y a parfois un peu d'animation en mettant des bannières, des mini-sites dédiés à un livre en particulier. Mais c'est pas très probant parce que ça sent tout de suite la marchandise, la camelote. Même si les éditeurs papier s'interdisent de vendre directement sur Internet, c'est pas très bien fait. C'est peut-être la jeunesse et la fantaisie, la science-fiction qui sont les plus imaginatifs. Et les éditeurs traditionnels peinent énormément à imaginer des relations directes avec les lecteurs. Tout comme un auteur et un éditeur peut rencontrer des lecteurs dans un salon, dans une librairie, et ça marche de moins en moins bien, là, il y a une sorte de répugnance à établir ce contact direct, à organiser un chat, à organiser des forums, voire même à ouvrir des blogs. Alors, on y réfléchit, on y pense, mais rien ne se fait vraiment, mais Léo Cher est en train de faire des choses, et je suppose que vous nous en parlerez. Moi, je voulais vous dire deux choses, c'est que même si les auteurs et les écrivains qui publient là encore du solide et pas du liquide ni du gazeux, je remarque dans ma pratique quotidienne que les auteurs sont hypersensibles à ce que l'on dit sur eux sur Internet. Il y a une sorte d'hyper-réactivité et je suis souvent très embêtée pour leur expliquer que nous n'y sommes pas pour grand-chose. S'il y a une mauvaise capture d'une information, si c'est une mauvaise couverture, et surtout s'organisent des critiques, et là c'est plutôt bon signe, je veux dire quand des internautes s'emparent d'un livre, mais il faut savoir que les écrivains paraissent moins bien supporter l'Internet, qui pour eux est gage de transparence, de vérité, de pureté, que la critique littéraire dans nos quotidiens, nos mensuels, qui là aussi a vécu et paraît de toute façon relativement en situation de collusion ou de petit bricolage et petite magouille. Alors, moi je voudrais juste vous faire part de trois de mes positions. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour moi aujourd'hui, il n'est pas question de publier un blog. Je ne publierai pas sous une forme écrite un blog. Et les quelques blogs qui ont été publiés, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Les deux derniers, là, à la rentrée, c'est celui de Pierre Askill, correspondant du Monde en Chine, et celui de François Bon, qui anime ses ateliers d'écriture sur son site. Il y a un autre... Pour des raisons dont je pourrais vous parler longuement, je ne publierai jamais de blog, ni de journaux intimes qui ont vocation à être sur Internet et pas à figurer dans un livre. Parce que le faire, c'est le faire forcément pour de mauvaises raisons, parce que ça signifierait que je suis séduite par l'impudeur de confession, par du sensationnel. Mais ce qui n'empêche pas que je souhaite la disparition des blogs, mais je crois vraiment que ces médias doivent coexister, doivent cheminer, peut-être s'accompagner, mais sûrement pas se confondre. Pour moi, là vous allez peut-être me trouver un peu cynique, pour moi les blogs ce sont des espaces de décompensation au sens psychanalytique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'espace du moi-moi, vraiment, je parle en mon nom propre, hein, je ne parle même pas au nom de la maison d'édition pour laquelle je travaille. C'est-à-dire que tous les cas, je souhaite vraiment que cette pratique du blog continue et se renforce parce que si certains écrivains qui sont un peu en panne, qui ont du mal à boucler un nouveau manuscrit, qui ont envie d'un écrit thérapeutique, qui voudraient faire quelque chose d'une expérience intime, si ces écrivains-là, ces auteurs, utilisaient le net, ça nous simplifierait la vie à nous éditeurs classiques, ça purgerait notre service de manuscrits. Vous savez sans doute que les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits sans dédicataire précis, hein, sont comme des bouteilles à la mer, ce sont la plupart du temps comme des journaux intimes. Parfois même, d'ailleurs, c'est compliqué, on n'a même pas le nom de la personne qui est venue déposer son manuscrit. C'est ce qui s'était passé pour Echnoz, d'ailleurs, qui avait déposé son premier manuscrit en oubliant de mettre son nom. Donc il a fallu guetter le jour où il allait revenir chercher son manuscrit. Donc moi je pense que c'est important pour des auteurs en mal d'éditeur, en manque d'écriture, de se servir du blog. Et aussi c'est un espace, mais là ça n'est pas mon savoir-faire ni mon champ de compétences, c'est un espace fantastique pour les artistes soit dit en passant, les artistes, les photographes, les peintres, les musiciens s'organisent beaucoup mieux que les écrivains. Vous parliez de MySpace tout à l'heure, mais regardez toutes les agences de photos indépendantes qui se créent. Et alors, je pense qu'il ne faut pas tout confondre, il faut à nouveau redifférencier les médias. Je parlais de... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les sites d'artistes, pour les forums également qui s'enclenchent sur des articles qui peuvent être publiés dans la presse papier. Mais je constate, et ça vous le savez tous, que la plupart du temps, c'est très mal écrit. Donc, c'est logoréique, c'est relâché. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut surtout bien se garder de vouloir importer les blogs sur du papier. Là encore, récemment, un écrivain très, très réputé me demandait deux choses. Premièrement, de décrypter une série de conférences qu'elle avait données à une radio nationale. Et comme ça faisait un texte assez court, elle me disait « Vous avez qu'à gonfler le manuscrit avec mon blog ». J'ai dit « Non, ce sera publié ailleurs. Peut-être que vous la reconnaîtrez dans quelques temps ». Parce que éditer, c'est aussi savoir dire non. Dire non, c'est aussi... quand on ne dit pas non, le travail de l'éditeur, c'est pas seulement de corriger les copies, c'est aussi d'accompagner, de stimuler, d'améliorer, d'encourager. Alors, nous ne sommes pas tout puissants, nous ne sommes pas omniscients. C'est justement François Bon écrivait là dans ce numéro des cahiers de la librairie Le Livre à l'ère du numérique. Il écrivait que le paradoxe d'Internet, c'est d'accepter que le livre ne soit pas le seul destin de l'écrit. Et je suis tout à fait favorable à ce propos. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Donc ma gauche a parlé, ma droite va réagir. Ce qui est intéressant, c'est il y avait une question tout à l'heure de monsieur sur la sacralisation de l'écriture. Et ce refus qui vient d'être signifié de rapatriement littéraire, hein, pas question de publier un blog. La question, c'est de savoir si ceux qui tiennent des blogs ont une sorte de rêve secret et inavoué, ce serait la part la plus intime de leur intime, et qui met toute personne qui écrit dans cette espèce de flot très français, où on commencerait par le blog, ensuite on serait rapatrié vers le Gutenberg pur et dur, ensuite il n'y aurait plus que 40 places, ça serait l'Académie française, et puis après il n'y a plus qu'une place, c'est le Panthéon. Hein, alors peut-être que vous êtes totalement affranchi de ça à ma droite, on va voir, mais je me tourne d'abord vers vous.
Donc la réponse en ce qui me concerne, c'est que moi je ne suis pas intéressé à ce qu'on publie mon blog.
Approche-toi.
Est-ce
que vous m'entendez mieux?
Non,
si, ça va marcher. Ça.
Est-ce que vous m'entendez mieux?
Non.
Voilà, ça y est.
Est-ce que vous m'entendez
mieux? Oui, très bien, très bien.
Donc la réponse en ce qui me concerne, c'est non. Je n'ai aucun désir, aucune envie que ce que vous appelez mon blog soit publié. Donc j'ai un peu l'impression de répondre de la partie gazeuse de l'écriture, la partie solide étant à gauche et la partie gazeuse est à droite. J'ai aussi l'impression d'avoir reçu comme une charge. Donc je vais quand même un petit peu essayer de répondre, parce que je pense que vous avez une condescendance par rapport à ce qui se trouve sur Internet, qui est, je dirais, inversement proportionnel à l'intérêt de ce que les éditeurs sont capables de produire à chaque rentrée littéraire. Alors, il y a quelque chose qui me choque assez fondamentalement, c'est que vous recevez en tant qu'éditeur, d'après ce que j'ai compris, à peu près 500 manuscrits par mois. Vous en lisez peut-être une dizaine parmi ces 500, et vous en publiez un par an. Je parle de façon, enfin, je dirais, il y a une proportion qui est comme ça. Si vous utilisez le même filtre par rapport aux écrits qui se trouvent sur Internet, vous obtiendrez exactement la même qualité que celle que vous publiez. La différence, c'est que sur Internet, ce qui a été retenu par votre filtre n'est pas plus visible que ce qui, de toute façon, n'aurait pas été retenu. Donc, sur la qualité et sur la quantité, je pense qu'on est à égalité.
Première pause d'arbre,
peut-être. Oui, enfin, je ne suis pas là pour défendre toutes mes consoeurs et confrères. Mais si vous considérez que la rentrée littéraire est mauvaise, c'est peut-être que vous n'avez pas lu les bons livres. Mais
je ne sais pas, j'ai lu Tumulte de François Bon, qui me paraît être le livre de l'année, effectivement.
C'est bien.
Oui, effectivement, mais celui-là vient plutôt d'Internet. Hein.
Il y en a d'autres quand même. Il n'y a pas que François Bon dans cette rentrée littéraire, ni Christine Angot.
Donc sur les 600 livres qui sont sortis au moment de la rentrée littéraire, il y en a 400 pour lesquels il n'y a eu absolument aucune recension dans la presse et qui sont directement partis au pilon. Je pense que vous parlez d'un système ancien.
Mm-hmm. Bon. Je ne m'attendais pas à cette réactivité.
Mais c'est vous qui avez commencé par parler du côté gazeux de l'écriture. Alors évidemment, vous attendez pas à ce que je ne reste pas sans ambition non plus. Hein.
Vous l'avez pris pour vous. En tous les cas, juste un petit correctif, c'est que nous recevons donc pour Kalman Levy, nous recevons 5000 exemplaires, donc 5000 manuscrits par an. Qui ne sont donc pas des manuscrits commandés, suscités, et nous les lisons tous, absolument tous. Je pense que c'est l'essentiel de mon travail, que de lire les manuscrits que je reçois par la poste. Et je les lis tous, et ils ne finissent pas tous à la poubelle, mais... Voilà la réponse. Et toutes les maisons d'édition ont des lecteurs, ont des services de manuscrits. Mais la plupart de ces manuscrits ne sont pas publiables. Et c'est regrettable. Moi, j'aimerais beaucoup plus trouver des manuscrits qui me sont envoyés par la poste. Ça serait plus simple.
Je voudrais juste préciser, je ne sais pas si on entend, une chose. Moi, je me sens un peu comme une espèce de flanc à mal pris maintenant, parce que je suis du côté gazeux et solide à la fois. Donc, c'est un petit peu
un petit peu étrange. Je pense que là, on a affaire à une lutte d'outils. Il n'y a peut-être pas lieu de l'avoir, cette lutte d'outils, parce qu'effectivement, ce qui intéresse les uns intéresse aussi les autres. Internet, c'est un révélateur de choses qui se voient effectivement aussi dans le support papier, tout simplement. Il ne faut pas être crédule avec l'outil blog. C'est pas parce que si vous commencez un blog un jour, vous n'allez pas raconter ce que vous avez mangé au petit déjeuner, ou vous allez peut-être vous dire que vous allez chercher à utiliser l'outil pour en faire quelque chose et pour déstabiliser l'outil ou avoir une création à part entière.
Non, mais c'est intéressant. Effectivement, il faut un esprit de synthèse, mais je pense que c'est un peu tôt pour arriver à la notion nègre-blanc des congrès radicaux d'avant-guerre. Moi, au contraire, je voudrais continuer, non pas à nous disputer pour rien, effectivement, que ce soit une lutte des structures où on renvoie l'édition à son côté terriblement 20e siècle. Non, c'est pas ça. Qu'on puisse examiner la matière. Et vous avez commencé de le faire d'une façon légèrement, peut-être dans tous les sens. De la verbe provocatrice, mais vous avez dit que c'est mal écrit, c'est logorique et relâché. Moi, je trouve ça très intéressant de dire ça, parce que là, il y a un véritable esprit de synthèse, vous avez lu, vous avez trouvé, vous portez un jugement, et j'aimerais que ceux qui pratiquent à ma droite, sans les traiter de gazeux ou autre, puissent réagir à cela, parce que c'est quand même intéressant. Et peut-être que le côté relâché et logorique... fait partie de ce que vous pouvez revendiquer. Je ne sais pas.
Non, je ne peux pas revendiquer cette relâche, sachant qu'il y a certains billets du bloc-notes du désordre qui me coûtent une journée. Donc une journée pour Berlin, je trouve que c'est honorable comme effort de recherche de qualité. Donc je ne pense pas qu'il y ait une adéquation. Entre le fait que si une écriture est sur Internet, elle est forcément relâchée. Encore une fois, je pense que l'appréhension qu'on a de l'écriture sur Internet jouit d'une très mauvaise réputation de mauvais genre, du fait qu'effectivement sont visibles énormément d'écrits qui ne le seraient pas autrement. Mais il n'empêche... certaines des découvertes, les plus frappantes que j'ai pu faire dans mes lectures, ces derniers temps, se sont passées en ligne. J'ai pu découvrir des auteurs comme Oulong, dont on peut télécharger les œuvres sur un site qui s'appelle Le Terrier. J'ai pu découvrir les œuvres de Ludovic Bablon. J'ai pu lire du Søren Berlottier qui est ici avant qu'elle ne soit publiée chez Fayard, toutes sortes de choses que j'ai pu lire avant qu'elle ne soit publiée, ou même avant, pour la plupart d'entre elles ne le sont pas encore. Faire un amalgame entre l'absence de qualité et Internet, d'une certaine manière, je trouve que c'est l'exercice d'un pouvoir qui est déclinant. C'est-à-dire, on se sent menacé, le milieu éditorial se sent menacé, et donc préfère stigmatiser ce qui se passe sur Internet en disant que c'est soit gazeux, ou soit relâché, ou... Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement relâché. Le livre que François Bon a sorti en septembre est un livre qui a été écrit... devant ses lecteurs, je parle de Tumulte, qui a été écrit devant ses lecteurs, au jour le jour, et dont il n'a pas vraiment modifié une virgule, c'est-à-dire que l'exigence qui a été la sienne tous les jours était immense. Et il se trouve que je le connais, il m'a parlé des fatigues que lui occasionnait l'écriture de ce livre, elles sont des fatigues généreuses.
Et alors, pour purger la querelle, purger, c'est un mot que j'ai entendu à ma gauche. Dernière question. Quand il est question d'espace, si j'ai bien compris, de décompensation.
C'est quand même psychanalytique.
Empli de moi-moi. Moi, j'ai pas entendu tout à l'ego, mais on aurait presque pu l'entendre. Hein. Là-dessus, qu'est-ce que vous répondez, Philippe de Jonquet?
Au même titre que vous n'êtes pas à même de parler pour toute la profession, je me trouve dans une position un peu particulière où je réponds pour toute la profession des blogueurs, sachant que je ne me considère pas moi-même véritablement comme un blogueur. Donc, je peux vous parler de là où j'écris. Avant d'écrire,
J'étais photographe et puis un peu graphiste. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait sur Internet, je n'avais pas envisagé ma présence comme étant une présence participative. Et puis, les choses aidant, je me suis aperçu qu'il y avait probablement des choses à faire. Donc je me suis lancé dans l'expérience d'Internet en tant que participant, et c'est là que j'ai, en quelque sorte, j'ai appris à écrire. Les sujets qui sont devenus les sujets de mon écriture sont les mêmes que ceux de ma pratique plastique passée et encore contemporaine. C'est-à-dire que je continue de photographier, je continue de peindre, de dessiner. Et ces sujets sont des sujets, comme le disait Patrick Fébollard tout à l'heure, sont des sujets qui sont récursifs. Donc, effectivement, à force de parler de l'acte de créer sur Internet, on finit par montrer le processus de création sur Internet. Et comme dans toute pratique plastique, il y a un moment privilégié, c'est le moment d'autoportrait. Et je ne pense pas qu'il y ait une démesure de l'ego à se risquer d'un autoportrait.
Sur ce sujet... Là, nous sommes dans le cadre du siècle, vous avez été photographe, vous l'êtes toujours, et dans quelques lignes de votre site, hein, lesordres.net, une entrée assez récente, il y a un moment que je trouve crucial. C'est lorsque vous avez l'air de vous plaindre des commentaires que vous suscitez. Et on a presque l'impression que je ne suis pas véritablement un exhibitionniste, néanmoins je fais réagir des voyeurs et ceux-ci tueront celui-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est comme ça que j'ai lu. Alors là-dessus, il faut donner une petite précision. En général, quand on parle de blog, on parle donc d'une écriture qui s'écrase au fur et à mesure avec le temps, et on parle également de billets sur lesquels il y a la possibilité de réagir et donc d'écrire un commentaire. Cette pratique est complètement bannie de mon site. C'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Justement parce que je sais pertinemment que si moi je passe une journée à écrire laborieusement Valim en essayant qu'elle soit de qualité, les réactions de mes lecteurs n'auront pas ce souci-là. Donc quelque part, je n'ai pas très envie que les gens viennent faire leurs besoins chez moi. Donc ça, c'est effectivement là-dessus, je vous rejoins. Il y a quand même dans l'espace Internet... je dirais, des pathologies qui sont encombrantes. Alors, donc, ce à quoi je référais, c'était pas tellement donc, les commentaires, puisqu'il n'y a pas de commentaires dans mon site, mais ce sont des mails que je reçois régulièrement et dans lesquels on s'aperçoit, et là on arrive, je pense, au thème d'aujourd'hui, que la notion d'intimité est en fait... est assez difficile à définir, comme l'a montré Patrick Rébollard. Et je pense qu'une partie de la difficulté, c'est que d'une part, nous ne plaçons pas les curseurs, le périmètre de notre intimité au même endroit les uns les autres. Donc il n'y a pas véritablement de règle générale que l'on puisse déduire de ce positionnement. Et que par ailleurs, l'intimité est quelque chose qui, à mon avis, appartient davantage au spectateur qu'à celui qui montre. Parce que celui qui montre, il a clairement défini une mauvaise foi pour toutes. Bon, ben voilà, ça c'est ce que je montre et ça c'est ce que je ne montre pas. Or, celui qui reçoit, lui, n'est pas forcément dans une position où il peut recevoir. Il peut être même profondément atteint par ce qui est, par ce qu'il véhiculait. Alors, quand je dis ça, vous allez vous imaginer toutes sortes de choses terriblement impudiques. Ce n'est pas le cas de mon site, mais il semblerait qu'effectivement, la recension d'une vie, je dirais, que j'essaye de mener complètement, qui est en plus véhiculée par le désir d'écriture, il semblerait que ce récit génère une attention particulière qui est en fait très dérangeante. Et effectivement, j'ai fini par trouver la solution. Il suffit de ne pas répondre. Mais ce n'est pas le plus facile non plus de ne pas répondre.
On peut réagir, pas tout de suite, parce que j'ai voulu commencer par organiser une sorte de tectonie des plaques. La jonction aura lieu. Mais je voulais d'abord continuer à entendre ma droite, et puis ensuite ça sera fini, hein, ça sera, il n'y aura plus de droite, ça sera de gauche. Voilà, non, non, pas de fluide, au contraire, ça sera la fluidité, c'est totale. Hein. Mais je trouvais ça intéressant que nous puissions constater dès le départ, d'emblée, ce qui vous séparait, et ensuite, tout modérateur d'une sorte de vieille parc, on va essayer de recoudre, hein, mais il est un peu tôt. Bien sûr que vous pourrez réagir, mais. J'aurais voulu que vous-même, maintenant, vous puissiez nous parler de votre pratique, mais à la lumière, évidemment, de ce que vous avez entendu. Et vous, j'ai l'impression que vous mettez dans votre site, alors, on faisait allusion à votre double casquette, hein, puisque vous êtes à la fois directrice de collection chez Léo Cher, vous êtes auteur chez Léo Cher, Fonction Elvis, publié cette année, et vous animez. Alors, comment ça se prononce ? Rouge, l'arc sans rose ?
L'arsène, c'est comme l'effet l'arsène.
Ah, l'arsène.
Vous le provoquez, mais les techniciens ne seront pas d'accord. C'est donc un circuit fermé de son qui crée un son extrêmement désagréable ou agréable sur les personnes.
On entend ça dans des radios, dans les services publics. Et donc, rouge, l'arsène rose. Ça serait. Et là, vous êtes, non pas obsédé, mais obnubilé par une sorte de détournement. Et on a presque l'impression que le blogueur. Détourne, non pas des mineurs, mais un art longtemps jugé mineur, qui fut celui des diaristes, celui du journal, et vous amusez à détourner le détournement. J'aimerais que vous me parliez de ça.
Ben moi, je me suis intéressée au blog en tant qu'outil, parce que ma pratique du journal ou mes lectures de journaux intimes est extrêmement faible et ça m'ennuie considérablement. J'ai jamais été capable de tenir. J'ai essayé, hein, adolescente, plus tard, etc., de tenir un journal et ça a toujours été une catastrophe au bout de deux semaines ou deux mois. Et ça a toujours fini à la poubelle. Et donc l'idée était de m'intéresser à cet outil qui permet de publier en temps réel et de manière très très, enfin, très logique, effectivement, des choses, et de voir ce qu'on pouvait y mettre en termes de médias également. Donc mon blog a été créé assez tardivement, il y a moins de deux ans, c'est-à-dire bien après le début de ma pratique d'écriture et le début de ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire également lire des manuscrits, lire des textes, en publier, etc. Donc effectivement, Rouge l'arsène rose se veut un objet détournement dans la mesure où c'est davantage un journal littéraire qu'un journal intime. Enfin, il y a évidemment des éléments d'intime qui se situent plus, enfin, qui sont plus de l'ordre de la photo en général ou de la vidéo, de petites mentions comme ça plutôt polysémiques et donc qu'on peut entendre soit d'un point de vue complètement extérieur, soit d'un point de vue du journal. Mais l'essentiel est quand même de dresser une sorte de panorama d'un univers littéraire et d'un univers artistique en général. D'où le titre, effectivement, parce que c'est vrai que le Larsen est ce qui dérange, ce qui fait du bruit, et ce qui n'est pas prévu dans la machine, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce blog-là.
Mais si j'étais la chanson, je demanderais l'intime dans tout ça, alors justement, parce que c'est quand même le sujet de notre rencontre. Il n'y a pas tant d'intime que ça sur l'écran. Y en aurait-il eu dans le cahier, pas plus? Quel changement
Ah, c'est comme disait Philippe, l'intime, c'est un peu ce qu'on veut y mettre soi-même. Pour moi, c'est extrêmement intime de mettre mes notes de lecture, de parler des textes, de tirer des fils dans ces textes, de donner des hypothèses de lecture dans mon journal. Par ailleurs, ce que je disais, c'est qu'il y a aussi des éléments d'intime, mais qui sont plus de l'ordre du jeu de cache-cache avec le lecteur. C'est là, je dis quelque chose, mais ça a l'air d'être intime, est-ce que ça l'est? En fait, ça l'est généralement pas du tout, alors que ce qui ne semble absolument pas intime l'est. Donc, c'est dans un jeu qui n'est lisible que par moi, donc c'est extrêmement égoïste.
Mais par exemple, quelqu'un qui lirait par-dessus votre épaule, dans le Métropolitain, un livre, ce serait un attentat à votre intimité, de votre point de vue.
Non, mais ça, c'est ce que j'ai fait dans un autre blog, qui s'appelle Underground Zero. C'était un journal, pour le coup c'était extrêmement intime, c'est-à-dire que quand je prenais le métro le matin, le soir, à chaque fois que je prenais le métro, je volais des petits bouts d'écrits aux gens qui étaient à côté, donc je les partais dans la boule comme ça, et je prenais les phrases rapidement que je trouvais, et qui se trouvaient finalement résumées parfaitement le trajet, la journée, ou qui pouvaient rendre compte aussi de manière très sociologique de ce que les gens lisent à un moment donné. Il y a beaucoup d'avnificodes à cette période-là, par exemple. Voilà, donc ça, c'était pour moi, Underground Zero, c'est mon journal intime, vraiment, dans la mesure où on peut retracer, finalement, tous mes trajets, à la station près, à la minute près. Voilà. Mais, effectivement, pas dans le journal.
Mais c'est à la fois votre intimité, puisqu'il s'agit de votre trajet, mais c'est, vous vous êtes fait prédatrice de la véritable intimité des autres en allant distraire la lecture pour nourrir ce qui vient illustrer votre simple trajet. Et quel est le plus intime ?
C'est une bonne question. Disons que c'était aussi un petit peu un travail photographique, en l'occurrence. Enfin, ça continue, ça déplace encore les outils. J'essaie d'être très discrète, effectivement, dans ma capture. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Ça crée des rencontres un petit peu amusantes. Mais en général, l'idée était vraiment de prendre quasiment un polaroid de la station de métro. Et donc de ne pas m'inclure dans l'intimité des gens, dans le quotidien des gens.
Donc, la jonction peut commencer de se faire, Richard Figuier, je le sens. Peut-être que vous pourriez réagir sous forme de travaux d'approche.
Non, mais c'est très intéressant ce que nos blogueurs se reconnaissent pas comme ça, mais peu importe les termes, puis peu importe si on est gazeux ou en bonne chimie, tout ça c'est des états de la matière, et la matière peut être gazeuse, liquide, le gaz se solidifie et se regazifie, etc. Bon, peu importe. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce qui se passe. Ce qui m'intéresse, vous avez dit deux choses tous les deux, parce que vous êtes, ça montre qu'il y a une cohérence. Vous avez dit deux choses qui m'intéressent. Vous avez dit, un, au fond, je décide de l'intime. Ça, c'est une position radicalement, à mon avis, nouvelle. C'est-à-dire que les anciens n'auraient jamais dit « je décide de l'intime ». Ils auraient dit « l'intime n'est pas une chose que je peux exposer, n'est pas un objet ». C'est pas l'homme sans valise ou l'homme avec la valise qui trimballe ses valises avec lui. L'intime, c'est le fruit d'un travail sur soi. C'est-à-dire, je décide pas de ce qu'est l'intime parce que il y a des normes sociales qui pèsent sur moi, il y a des stéréotypes qui pèsent sur moi, il y a des le regard que je pèse sur moi est déjà médiatisé par tellement de choses. Il faut que je décode, je décrypte tout ça pour essayer d'arriver à un jeu. Là encore, on parlait de la psychanalyse tout à l'heure. C'est le fameux là où est le ça. Il faut que le jeu advienne. C'est un travail de faire advenir le jeu, de faire advenir l'intime comme étant soi-même. Soi-même comme un autre, disait Ricoeur, mais là, soi-même comme soi-même. L'ipsé, le plus ipsé qu'on puisse trouver. Hein. Alors peut-être que c'est une illusion, ça, les philosophes l'ont dit, bon. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, vous maîtrisez, au fond, la chose, et vous dites, je décide de ce qui est intime, ça c'est intime, je ne le montre pas, ça c'est pas intime, donc je le montre, je l'expose. Comme si l'intime était quelque chose. Et puis la deuxième chose, de ce que Philippe Joncaire a dit, c'est intéressant, je ne respecte pas la logique du média dans lequel je suis. La logique quand même d'Internet, c'est la logique de l'interactivité. Vous la bloquez. Vous la bloquez parce que la logique du blog, c'est de réagir. J'envoie un message, je réagis. Si vous enlevez le commentaire, qui me semble être un des atouts du blog, parce que précisément ça permet on perd sûrement beaucoup de temps avec tout ça, vous avez raison, il y a un problème de temps, mais on est dans une temporalité aujourd'hui qui est complètement, à mon avis, déstructurée, donc on met une journée pour écrire 20 lignes, et puis vous avez un bonhomme qui arrive avec un commentaire débile sur vos 21 lignes, qui vous fait perdre du temps parce qu'il faut y répondre, ou pas. Bon alors là, mais il y a quand même un jeu d'interactivité, il y a quelque chose à certainement à tirer de ce dialogue qui se noue, et là vous bloquez la machine, je veux dire, mais c'est pas la machine que vous bloquez, c'est la logique du médium. C'est comme si, dans une logique ancienne, on écrit à quelqu'un, on interdit à ce quelqu'un de répondre. Surtout ne répond pas à ma lettre.
C'est pas tout à fait la même chose. La logique qui est la mienne, qui est toute proportion gardée, c'est que si j'exposais un tableau dans une galerie, je n'aimerais pas que les gens viennent avec des gommettes pour rectifier la composition que j'ai faite.
Oui, mais le tableau n'exige pas de réponse. Il exige une contemplation, pas une réponse. Ce que
j'écris n'exige pas nécessairement de réponse. C'est pas parce que c'est sur Internet qu'on est obligé de...
Mais vous aurez des commentaires ou pas. Vous aurez zéro commentaire ou 10 000. Mais
je veux dire, zéro, ça me convient très bien, c'est un très bon chiffre.
Oui, mais je veux dire que vous allez plus loin, vous bloquez, ça, je crois que vous bloquez la logique du milieu. Un tableau n'exige pas une réponse.
De quelle logique parlez-vous là? Je suis un petit peu stupéfait, c'est-à-dire que.
Interactive.
On me donne. Mais l'interactivité, ça existe à certains endroits d'Internet, ça, en quelque sorte, ça n'existe pas dans mon site.
Je crois que la logique.
Je veux dire, c'est pas parce que vous avez, c'est pas parce que vous avez toutes les possibilités qu'il faut les utiliser toutes. Vous imaginez quelqu'un qui ferait la cuisine et qui mettrait absolument toutes les épices dont il dispose dans son placard.
Mais alors, à mon avis, on revient au schéma.
On finirait par quelque chose de terriblement indigeste. Hein.
Oui, oui, ça, certainement. On revient au schéma tout à l'heure, c'est-à-dire vous mimez le livre. Enfin, vous mimez une expression classique.
Non, pas du tout. Dans le sens où, où
même si vous ajoutez des choses, du son et tout ça, vous mimez une.
Bah, déjà, ajouter du son, du son de la vidéo et tout ça, et des images, c'est pas nécessairement quelque chose qui va de soi. Ça demande un travail. Il y a un travail de pertinence dans le choix de l'image par rapport à l'écrit. Il y a ensuite, dans le principe de mon site, une déambulation qui est complexe, qui est labyrinthique, qui demande énormément d'efforts. Je veux dire, ce ne sont pas des choses qui vont de soi. On a le sentiment que parce que tout le monde peut le faire, que tout le monde sait le faire. C'est pas vrai. Tout le monde peut effectivement ajouter du son, tout le monde peut ajouter une image, mais il y a peu de gens qui savent prendre une photo correctement, il y a peu de gens qui savent filmer correctement, et il y a encore moins de gens qui savent capturer un son et le restituer correctement.
Mais Philippe Jonker, là, nous sommes au cœur de quelque chose de très important, puisque vous êtes parmi nous. Victime d'une sorte d'amicale vivisection. Donc, mais ce que vous nous dites, ce que vous dites par rapport à votre blog et ce sur lequel insistait Richard Filier, c'est passionnant. On en arrive en définitive à vouloir parler ex cathedra électroniquement. C'est intéressant votre. Et je vous comprends très bien, il y a toujours un Séraphin Mapion qui vient nous. Parfois même dans des débats, pas ici bien sûr, mais parfois je me souviens qu'il y a des, dans les salles, quand les gens prennent la parole, c'est 36-15 que j'existe, comme il y a les finales. C'est insupportable, nous sommes d'accord. Mais est-ce que là, en acceptant une sorte d'auto-analyse, vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans ce que Régis Debray appelle l'effet jogging, c'est-à-dire qu'en définitive, la modernité la plus débridée crée de l'archaïsme. L'effet jogging, pour lui, c'est depuis que l'homme est dans l'habitacle de sa voiture, il n'a jamais voulu autant marcher pour sentir le pas sur le sol comme un préhistorique, vous voyez. Et donc, là où il y a courant moderne, il y a contre-courant légèrement archaïque. Et vous, refusant que quiconque réponde à votre blog voulant parler ex cathedra, est-ce que vous n'êtes pas, et c'est une question, c'est pas une affirmation, ni un coup de scalpel, est-ce que vous n'êtes pas dans cette logique-là?
Non. Non, encore une fois, je pense que l'outil Internet pour lequel j'ai acquis une certaine maîtrise du maniement, il est nulle part écrit que je doive absolument utiliser d'interactivité. Il est nulle part écrit par exemple, Cartier-Bresson a ignoré jusqu'à sa mort qu'il existait de la photographie couleur. Enfin, je veux dire, c'est. Il n'y a pas de dogme. Je pense qu'il y a une confusion qui vient du fait que, comme l'outil est naissant et par ailleurs extrêmement évolutif, on manque de repères. Et donc, du fait de ce manque de repères, on suit des carcans. Et en fait, depuis le tout début de l'existence de mon site, je m'attache à ne jamais respecter les règles. C'est assez troublant, c'est-à-dire que partout, on va utiliser le lien hypertexte. Alors, on va prendre une phrase sur un mot, une expression, on va faire un lien. Et en général, le lien tombe de sens, littéralement, avec la partie suivante. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi ? On pourrait très bien faire un lien sur quelque chose qui n'a pas un rapport si voisin que ça avec ce qu'on dit. Donc là, vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, là où j'interroge l'outil, c'est pas dans sa globalité. Je le saisis en tant qu'artiste à un endroit qui m'intéresse. Mais il se trouve que l'interactivité, qui fait partie des autres, de la palette des autres outils ça m'intéresse beaucoup moins.
Avant de donner la parole à la fois à l'ordinologie des gilets, juste une dernière question sur ce point qui est au cœur de notre sujet. Est-ce que si vous bloquez toute intrusion interactive, ce n'est pas aussi, au fond, lié à une certaine idée de l'intime que vous vous faites? Est-ce que ce n'est pas parce que vous aurez l'impression que ils vous feraient trébucher ou ils viendront souder est un bien grand mot, mais vous voyez, vous déranger dans votre colloque avec l'intime?
La question n'est pas si simple. Le site des hommes a acquis une popularité qui est quand même assez forte, puisque le nombre de visiteurs oscille entre 4000 et 5000 par jour. Je ne pense pas qu'il y ait 5000 personnes véritablement qui soient au-dessus de mes épaules, mais les choses sont différentes. Là, je ne sais pas, on peut être une centaine de personnes dans la salle. Je suis paniqué à cette idée qu'on soit une centaine de personnes dans la salle, alors que je ne suis pas paniqué que 5000 personnes puissent me lire par jour. Vous comprenez, il y a une différence. Si des personnes, je dirais, ne sont pas contentes, entre guillemets, avec ce que j'écris, ou aimeraient m'apporter des précisions, elles le font tout simplement en m'envoyant un mail. Et il est arrivé, mais c'est très très rare, et c'est pour vous dire à quel point je pense que la proportion de messages intéressants est très faible, c'est qu'il m'est arrivé de trouver effectivement dans ces mails des éléments de réponse ou de discussion qui m'ont permis d'aller plus loin, et à ce moment-là de les rajouter effectivement moi-même en précisant d'où ils venaient. Donc il y a une règle, et puis il y a des exceptions.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Vous aussi, vous faites le tri. Vous faites le tri, vous sélectionnez, vous avez votre libre arbitre, votre jugement, votre compétence. Et je pense que quand Laure Limongite dit que ça prend deux outils, et alors effectivement, l'outil des subclaquants et l'outil des novateurs, c'est aussi, on n'appartient pas au même domaine non plus. Vous êtes un artiste. Moi, je ne suis pas dans le domaine artistique du tout. Donc, Internet pourra m'intéresser pour les sciences humaines et sociales, et Richard pourra en discuter, pour justement, non pas pour l'interactivité, mais pour permettre une arborescence sur des données. Mais je crois qu'il faut aussi revenir. Il faut aussi revenir à nos métiers et à nos compétences. On n'est pas dans les mêmes lieux, on n'est pas dans les mêmes domaines, on ne travaille pas de la même façon. Donc forcément, on a peu d'affinités. Si ce n'est se retrouver à cette table.
Oui, nous frôlons l'atterrissage en douceur.
Ce qui est intéressant, c'est que vous comptez vos visiteurs. Ça, c'est intéressant.
Excusez-moi.
Vous comptez vos visiteurs. Vous bloquez l'interactivité, mais vous comptez vos visiteurs.
Attendez, c'est
rigolo, ça. Non, mais moi, je vais comprendre. Moi, je fais la bouche du
coup. Je voudrais quand même préciser. Je vais préciser que ce n'est pas non plus quelque chose que je fais tous les jours, peut-être même pas toutes les semaines, et on va dire que c'est une habitude mensuelle. Malgré tout, cette habitude mensuelle permet, parce que les outils sont assez performants, elle permet de remarquer quelques-unes des habitudes des lecteurs, et elle permet surtout, et ça c'est beaucoup plus intéressant, de savoir d'où ils viennent. Et d'où ils viennent est assez intéressant, parce que si mes centres d'intérêt, par exemple la photographie, et tout particulièrement un photographe, Robert Franck, si vous tapez dans Google Robert Franck, vous allez tomber chez moi. Et c'est du fait qu'il y a énormément de sites qui citent Robert Franck et qui font un lien vers le site, parce que ce sont des ressources. Ce sont des ressources intéressantes. Et pour moi, c'est également intéressant de savoir comment les gens sont arrivés chez moi, parce que ça me permet ensuite d'aller visiter les gens qui pointent vers moi, et d'une certaine façon, de voir quelles sont leurs ressources. Là, il faut faire attention. Il n'y a pas de, je dirais, de recherche égotique particulière à se dire, tiens, j'ai 5 000 visiteurs. La semaine dernière, il y avait un article du Monde, j'ai eu 12 000 visiteurs. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. En revanche, savoir d'où les gens viennent et qu'est-ce que j'ai en partage avec eux, bon, je vous rassure aussi, là, c'est rarement très, très intéressant. Mais il m'est arrivé, par ce biais, de faire de véritables rencontres. Je veux dire, j'ai devant moi, là, il y a Solène Berruquier, Patrick Révolard, Isabelle Amin, tout ça, ce sont des gens que je connais, parce qu'effectivement, un jour, j'ai remarqué qu'il y avait un lien entre les sites, et du coup, la conversation s'est engagée.
C'est-à-dire vous êtes rencontrés tous les trois.
Oui, c'est vrai. Mais
Tatis Mutandis, c'est ce que fait un directeur de commercial dans une maison d'édition qui, lui, regarde ses listings de vente tous les jours, et pas quelquefois dans le mois. C'est en effet connaître ses lecteurs, connaître les acheteurs des livres, etc. Donc les pratiques là sont convergentes, c'est intéressant ça.
Moi, c'est quand même pas comparable terme à terme. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de pilon. Quand on regarde les listings des blogs, effectivement, ce qui est intéressant, moi par exemple, j'ai compté le nombre de gens qui venaient par l'entrée B7 et MB7, donc ça m'intéressait de voir effectivement les gens qui rentrent par, je ne sais pas, culotte rose sale, ou par LNB7, ou par Anne Margalbiac, ça n'a quand même rien à voir. Alors qu'un commercial qui regarde les mises en place, essaie de... il s'est extrapolé sur le taux de retour, et on s'en fout du taux.
Qui va lire Marie-Lyne Sklar, on va lui proposer David Chicode, et qui va lire François Bon, on va lui proposer...
Non, parce que c'est pas bien, parce qu'on vend rien. Non, c'est pas de l'argent.
Mais là, nous sommes à nouveau vers l'outil et sa face noire, et on pourrait dire pour essayer de d'exagérer les choses et de les rendre encore plus noires que je prends mon billet que d'ici 15 ans, les journalistes de Libération, pour ne pas nommer cet organe, seront payés au nombre de connexions qu'il y aura vers un papier, au nombre de liens. Mais ça, nous sommes dans l'outil. En revanche, je voudrais revenir sur cette question d'intime, à partir de quelque chose qui a été soulevé. Alors j'espère que ce n'est pas trop personnel, pas intime, mais vous-même, Patrick Rola, vous avez soulevé cette question quand il vous a présenté rapidement en parlant de votre employeur. Alors, et il se trouve que moi, quand j'ai voulu consulter votre site, dont je ne suis pas très doué, j'ai pensé que c'était de ma faute, il y a la semaine de Balthazar, je n'avais pas le droit, c'était écrit en anglais, hein, je ne pouvais pas y accéder, et vous m'avez répondu après que je vous ai envoyé un courrier, parce que ça fâche mon employeur, je n'ai pas donné. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Est-ce qu'on peut en parler ou...
Oui, on peut. C'est un petit peu long, enfin, je vais essayer d'être le plus synthétique possible parce que ce n'est pas passionnant. Mais je pense qu'il est arrivé cet hiver que j'ai d'assez graves difficultés à mon travail et que, en fait, des gens qui souhaitaient me nuire à mon travail pour des raisons qui leur appartenaient en proche se sont en fait servis du contenu de mon site comme élément d'accusation. Et pour une raison qui est extrêmement fallacieuse, c'est-à-dire que de temps en temps, dans la chronique photographique que je faisais tous les jours où je passais beaucoup de temps à mon travail, de temps en temps, il y avait une photo de mon travail. Et alors, ils se sont servis de ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, les photos incriminées sont effectivement prises à mon travail, mais c'est les photos de la cafetière, de la salle de repos. Et en fait, donc c'est uniquement pour cette raison. Et donc j'ai dû faire face à non seulement mes détracteurs, mais aussi à une personne au juge de cette situation, qui a tout à fait effectivement consenti à comprendre que, effectivement, ce que je faisais dans ma vie privée, c'était ça me regardait, et que ce que je faisais à mon travail, et apparemment on en était content, c'était autre chose.
Mais nous sommes en quelque sorte dans notre sujet, néanmoins.
Oui, tout à fait, oui. Bon, alors, pour aller plus loin, en fait, ce qui m'a été reproché, c'était. Parce que ça a été découvert dans le site, c'est j'ai été faire un voyage d'affaires de semaine à Brno, en République tchèque, et j'ai eu une journée de congé, et j'ai mis à profit la journée de congé pour aller visiter les camps de Auschwitz et Birkenau dans le sud de la Pologne, 300 km au nord. Et je me suis servi pour ça de la voiture de location qui était fournie par mon employeur.
Bravo.
Qui, par ailleurs, enfin bon, je sais pas, là n'est pas la question, mais ça a été un point d'achoppement, il se trouve que mes détracteurs étaient en plus des gens qui étaient, on va dire, politiquement très à droite, et que donc effectivement pour eux c'était très connoté, très connoté. Et, voilà.
Mais juste dernière question à ce sujet très.
Mais vous voyez, c'est pas passionnant, mais
je trouve ça très intéressant parce que on voit les choses en train de se faire. Cet employeur, on ne va pas le citer, mais on est dans le domaine de la direction d'esprit, comme on disait il y a 60 ans, c'est-à-dire littérature, cinéma, théâtre, enseignement, ou pas du tout.
Pas du tout.
Excusez-moi, j'ai pas compris. Je veux dire, dans quel champ, dans quel domaine
On n'en a pas bien.
Oui,
l'informatique.
Ah d'accord, très bien. Je voudrais, mais toujours par des détours qui nous ramènent à l'intime, revenir sur quelque chose dont vous parlez, Philippe Jonquette, dans votre site, où vous répondez à quelques questions qui vous sont posées. Et une des questions est liée à l'encyclopédie, ou en tout cas votre réponse. Une des questions est liée à Wikipédia.
Oui.
Et vous répondez avec une sorte d'humour désabusé que. Je ne sais plus si vous dites Diderot ou Lambert, Diderot considérerait ça d'un œil amusé ou que
catastrophé, en fait.
Catastrophé.
Catastrophé.
Et là, je me disais qu'il pourrait y avoir un dialogue très intéressant.
Je veux dire, l'entreprise de Wikipédia, c'est, un avatar extraordinaire d'Internet. C'est-à-dire que vous avez un principe qui paraît excellent, toute une communauté très très large. On lui offre la possibilité d'écrire une encyclopédie, chacun ayant une marotte ou une spécialité, écrit des articles de cette encyclopédie, et tout va bien dans le meilleur des mondes. La différence, c'est que vous allez écrire une chronique sur un sujet que vous connaissez bien, et moi, que je connais moyennement, mais votre opinion sur ce sujet ne m'intéresse pas, je vais corriger votre article. Vous êtes beaucoup plus calé que moi sur ce sujet, mais c'est pas grave, c'est le dernier qui parle qui a raison. C'est un avatar complet. Et quand vous prenez un certain nombre d'articles qui sont extrêmement sensibles, comme par exemple islam ou judaïsme, dans la Wikipédia, la définition change pratiquement toutes les semaines et elle est toujours fausse. Et donc, vous voyez, c'est un principe qui est excellent et qui, en fait, débouche sur quelque chose de monstrueux.
Et nous sommes dans l'ordre, sinon de l'intime, du moins de la conviction intime. Je me suis amusé, après avoir vu votre réponse, à aller sur Wikipédia. J'ai voulu regarder certains fauteuils de l'Académie française, encore une vieille marotte. Je suis allé au fauteuil du maréchal Pétain, et j'ai trouvé un texte, visiblement émanant, pas du tout ce côté palimpseste dont vous parlez. Visiblement, il était seul, parce que ça n'intéresse personne, cette petite niche Pétain. Et puis, il y avait Fourgué, sa conviction intime, visiblement cryptée. Là aussi, on est dans l'exposeur crypté, mais visiblement faisant partie de l'association de Philippe Théo Jacques-Pétain. Donc on a là, et d'ailleurs l'association est citée.
Alors, très sûr,
je me demande si on n'est pas dans une
sorte. Est-ce que je peux préciser quelque chose? C'est-à-dire que c'est la fausseté ou l'avatar qui est Wikipédia est de nouveau une assez mauvaise presse. Mais c'est pas le vecteur de l'information qui fait que l'information est bonne ou mauvaise. Je prends deux exemples. Vous avez la fausse interview de Fidel Castro par Pauvre d'Arvor en 1991. C'est quelque chose de terrible. Aux 20h, on présente une fausse interview. Et ça passe comme une lettre à la poste pendant 15 jours, jusqu'à ce que quelqu'un, effectivement, s'aperçoive que les températures de couleur des deux plans ne sont pas les mêmes.
Ensuite, il ne s'agit pas d'une fausse interview, il s'agit de vouloir faire passer pour une interview donnée à TF1 une conférence de presse.
Oui,
donc c'est effectivement, ils font un faux plan.
Ensuite, en 1994, vous avez l'ancien footballeur américain O.J. Simpson qui trucide sa femme et son amant et qui est arrêté. Et dans la semaine, c'est une affaire qui passionne les Américains, et dans la semaine, vous avez les deux hebdomadaires Time et Newsweek qui utilisent pour leur une exactement la même photo. Celle du Time avait été outrageusement maquillée, ce qui faisait qu'il était terriblement criminel sur cette photo, et celle de Newsweek, non. Alors, on s'est dit, vraiment, Time, c'était terrible, parce qu'ils avaient fait de la désinformation, et qu'en plus, on pouvait le voir, puisque Newsweek, son concurrent direct, avait utilisé une photo qui était, en fait, moins manipulée, mais tout aussi manipulée. Donc en fait, la manipulation, c'est quelque chose qui existe et ce n'est pas propre à Internet.
D'accord, mais néanmoins, je voulais juste parler de cela pour essayer de vous réconcilier vous deux, mais vous êtes allé au-delà de ce que j'imaginais sur la critique d'Internet et des autres. Donc maintenant, je voudrais peut-être organiser un dialogue entre vous à partir de ce qui fut dit par, je crois, une intervenante juste avant nous, à savoir que Internet, les blogs, l'intime, radicalise, je crois, l'écriture. Et là-dessus, je voudrais avoir votre avis à toutes deux. Peut-être pourriez-vous commencer.
Radicalise, je ne sais pas si j'emploierai ce terme. Moi, dans ma pratique d'écriture, l'écriture du blog et l'écriture tout court, dirais-je, est complètement différente. Donc, jamais je mettrai sur mon blog des extraits de textes en cours destinés à un livre. Ça me semblerait impudique, peut-être. Enfin, en tout cas, ça n'est pas du tout le même objet. Les textes qui sont écrits pour être sur le blog sont des espèces de face B, en quelque sorte, de ce qui est en train d'être écrit pour un livre. C'est l'ambiance générale, c'est une inspiration tirée d'un élément particulier qui donne lieu à une sorte de digression qui ne sera pas utilisée, qui est donc sur le blog. Ou il s'agit de tout ce qui est du type écriture critique dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pas vraiment une radicalisation, mais j'ai totalement conscience du regard immédiat qui est porté sur le texte. Et comme c'est un texte plus immédiat, forcément les textes que je destine à un travail extrêmement plus long n'apparaissent pas. C'est dans cette logique temporelle.
Donc là, on était par rapport à votre propre expérience, maintenant par rapport à votre regard de passante sur la toile.
Sur les blogs, alors. On pourrait parler de blog d'écrivain dans ces cas-là pour voir si c'est les plus radicales par rapport à ce qu'ils font en général. Je ne sais pas si j'en vois beaucoup. Je regarde le blog de Béatrice Cussol, qui me semble effectivement constituer un élément très très intéressant de son écriture. Celui de Chloé Delhomme est beaucoup plus. Là, on est beaucoup plus dans le journal. Quand elle est sur son blog, elle est effectivement beaucoup plus long, beaucoup plus délié. Sinon, en fait, je lis assez peu de blogs, mais c'est vrai, j'en consulte assez peu, ou alors des blogs de dessins ou de photos. Donc là, c'est un petit peu difficile d'avoir un jugement en la matière.
Comme l'écrivait Gabriel Mazeneuf à la fin d'une de ses chroniques du Monde dans les années 70, il n'y a qu'une aventure qui me captive de point à
l'heure. Ouais, un petit peu.
Bon, on est aussi. C'est difficile.
Moi, je voudrais rétablir un parallèle. Entre les blogs et le laboratoire, vous employez ce terme tout à l'heure, vous disiez la phase B. C'est évident que, là encore, je ne parle qu'en tant qu'éditeur, je pourrais vous parler d'autre chose, de moi en tant que maman d'une petite fille, enfin, mais je m'astreins à vous parler de ma pratique professionnelle, point. Ce qui peut être intéressant dans des blogs, moi, par contre, je lis assez souvent des blogs parce que j'aime me tenir informée et j'espère que ces blogs vont être le même type de matériaux que les brouillons d'écrivains, que les échanges entre intellectuels, entre auteurs, leur correspondance. Voilà, donc si effectivement, moi en tant qu'éditeur, avoir cette conception des blogs m'intéresse complètement. C'est que les blogs viennent comme un appareil critique, comme un laboratoire, pour permettre à des chercheurs, à des universitaires, de comprendre quelles sont les conditions qui ont permis l'émergence d'une œuvre, sa jeunesse. Voilà. Donc, quant à répondre à votre question, l'écriture est-elle radicalisée sur les blogs? Je ne peux pas vraiment répondre. Alors, tout à l'heure, vous parliez de 20 lignes qui peuvent être coûteuses, mais tout comme 20 lignes peuvent être coûteuses pour un écrivain au papier. Moi, je remarque dans les blogs que je consulte régulièrement, celui de Mona Chollet, celui de Bon, celui d'Assouline, celui arrêté de Virginie Despentes. J'étais vache tout à l'heure en disant que c'est relâché. ce qui est relâché, c'est les blogs du tout venant. Mais il y a des blogs tout à fait précieux, originaux, forts. Donc là, je pense qu'on s'est mal compris. Et je mettais votre site dans cette seconde catégorie, donc je ne vous agressais pas. J'agressais plutôt ces confessions de demi-dinette, ces obsessions. Moi, ce que je remarque, c'est que les auteurs, sur leur blog, ont tendance à écrire plus long. Alors, j'ai dit tout à l'heure logorique, mais je trouve qu'on écrit long. On écrit long et pas forcément de manière subtile ni incisive. Voilà, mais je ne suis pas éditrice de que sais-je. J'ai eu cette expérience de publier le livre inédit d'un auteur qui, par ailleurs, tient un blog. Et les deux écritures n'ont rien à voir, si ça vous intéresse. Reportez-vous aussi de Mona Chollet, Périphérie, et lisez le texte que j'ai édité d'elle, La tyrannie de la réalité. C'est vraiment pas du tout la même chose. Voilà.
Tout à l'heure, Patrick Fabalard, vous avez montré beaucoup d'équanimité, comment cette jeune fille, dans son journal d'une jeune fille stupide, finissait par vous atteindre. Vous étiez concerné, vous étiez presque ému. Et là, il y a quand même quelque chose de passionnant et de renversant, littéralement. C'est Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, on connaît tous. Mais aujourd'hui, à l'autre bout de la chaîne, chacun, à condition de s'immerger suffisamment, finit par se dire, en butant sur cette question de l'intime, la jeune fille stupide, c'est moi.
C'est le nom de son blog, La jeune fille stupide.
Oui.
Il y a là quelque chose.
C'est elle qui l'a choisi.
Et donc, moi je crois que tout à l'heure, quand vous avez dit que vous ne lisiez pas tellement les autres. Mais je suis persuadé que du côté du récepteur, je ne sais pas si sur cette estrade, et à ce moment-là, je poserai peut-être une première question à la salle, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont vraiment immergés est-ce que, parce que jusqu'à présent, vous m'apparaissez le seul, mais je ne sais pas là ce matin. Parce que là, il y a quelque chose qui tient de l'obsession, qui se crée et qui me semble assez nouveau. Ça change, et ça a à voir avec l'intime, et nous sommes au cœur de notre sujet, mais non pas du côté de vous, émetteur si singulier, mais du côté de nous, les récepteurs bombardés. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui... Excusez-moi de faire appel à tant de choses intimes, mais qui passent leur vie à feuilleter. Est-ce qu'on peut feuilleter d'ailleurs ça, si vous voulez, on ne feuillette pas. On plonge dans un blog. Ça ne se lit pas, finalement, d'un œil si distrait que l'imprimé. Et qui aurait pu réagir par rapport à ce que l'intime ou le prétendu intime d'autrui fait mouvoir en lui. Non, il y a peut-être un microphone pour madame qui est au troisième rang de ce côté-ci. Mais j'ai. Ah oui, je n'ai pas respecté moi non plus, n'est-ce pas, l'économie. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, tiens, on va poser des questions tout de suite.
François, est-ce que vous permettez, je vous pose une question. Parce que nous nous sommes parlé quand même avant d'être réunis à cette table. Et est-ce que c'est vraiment trahir le secret de nos échanges que de répéter que vous étiez prêt à ouvrir un blog, vous ? Il y a jusqu'à votre immersion pour les besoins de cette table ronde. En fait, vous m'aviez dit que vous étiez prêt à mettre en ligne certains documents, à parler de vous sur Internet, et que ce que vous en aviez vu et lu, vous avez absolument retenu de le faire.
Donc voilà,
je... Oui, là, vous respectez encore moins les choses, parce que vous voulez transformer un modérateur en intervenant, et un modérateur qui, malgré tout, doit s'en tenir à l'essentiel, à savoir le mot réalisable. Donc de ce point de vue-là, je ne peux vous demander de parler de vous que si je renonce à parler de moi-même.
Non, je suis informaticienne de profession. Donc pour moi, l'ordinateur, je suis devant 12 heures par jour de toute façon. Et puis maintenant, je travaille à mi-temps et le reste du temps, je suis quand même devant mon ordinateur. C'est pas une addiction, c'est parce que je trouve que c'est un outil de travail génial. Et je lis beaucoup de blogs, mais ça tombe que en fait, les blogs que je lis le plus ne sont pas des blogs de type journaux intimes, mais des blogs un peu comme vous parliez dans le métro, tout ça. Le blog d'un avocat, par exemple, Maître Eolas, qui parle du quotidien de son travail. Toutes sortes de blogs, en fait, qui parlent plus du métier, de l'expérience des gens, plutôt que des blogs où ils racontent leur vie. Ensuite, naturellement, comme j'habite près de Paris, j'ai rencontré beaucoup de blogueurs, parce que ça se fait tout seul, quoi, quand on habite ici. Et donc, du coup, maintenant, je lis beaucoup de blogs, parce que les gens sont des amis. Et donc, en fait, je vais sur leur blog, oh, ben, tiens, ce matin, je veux savoir comment va Sylvie, ou comment va... Et donc, je vais lire leur blog pour prendre des nouvelles, tout bêtement. Et donc, c'est...
Mais ce sont des amis qui tiennent un blog. Mais vous n'avez jamais fait la démarche inverse, à savoir être si captivé par un blog que, d'une façon ou d'une autre, vous seriez devenu l'ami
en entrant en contact. Oui, c'est arrivé, mais ça se fait tellement naturellement. Enfin, quand on a la chance d'habiter Paris, où c'est facile physiquement de se rencontrer, c'est 3 stations de métro, c'est un coup de RER.
Et donc, du coup, vous ne restez pas dans cette espèce d'enfermement électronique, vous en sortez.
Ah non, c'est le contraire. Les blogs permettent de rencontrer des personnes qui ont les mêmes affinités. Je peux donner l'exemple du blog de Kozlika, qui est une passionnée d'opéra, et du coup, elle organise, on va faire la file d'attente, bientôt, là, on va y aller, un vendredi à 6h du matin, on se regroupe tous, on a des places comme ça à tarif réduit, après on va à l'opéra tous ensemble, on n'aurait pas pu y aller si on était restés chacun dans notre coin, parce que c'est trop cher, sinon, enfin... Le blog n'est pas une fin en soi, le blog est un outil. C'est... voilà.
Non, mais ça, c'est ce que les sociologues constatent aujourd'hui, c'est-à-dire la constitution d'Internet comme facteur de construction de communautés, il vaut mieux dire communauté plutôt que tribu, parce que de gens qui en effet partagent des passions, des affinités, etc. Donc c'est le vieux phénomène des affinités électives qui est transmis par la correspondance comme dans la République des Lettres jadis, mais par le blog. Là, à mon avis, on n'est plus du tout dans l'intime, c'est comme avec Wikipédia. Moi, je pour dire 30 secondes sur Wikipédia, c'est pas tant Wikipédia qui est inquiétant pour soi, c'est ce que ça représente, ce que la culture encyclopédique peut représenter aujourd'hui. C'est-à-dire, l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, c'est une arme de guerre contre une certaine métaphysique, un certain poids religieux, etc. C'est une machine de guerre, c'est pas du tout une machine encyclopédique au sens où vous allez tout savoir, donc on récapitule le savoir. C'est une machine de guerre, et aujourd'hui on pense que parce qu'on aura, c'est un peu le même reproche que je ferais à l'université des savoirs, c'est-à-dire parce qu'on aura entendu le matin une conférence sur, je sais pas moi, les jumeaux monozygotes, et le soir une conférence d'Alain Corbin sur les rivages, qu'on va être un homme cultivé ou une femme cultivée. Non, la culture, alors là on rejoint l'intime, c'est une construction de soi, c'est la même chose. Mais on a l'impression que ces évidences, on ne les partage plus aujourd'hui. Mais ce que vient de dire madame, c'est évident. Il y a des phénomènes de rapprochement, de communauté. Et là, quand on dit Internet isole, ça c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas ce que les sociologues constatent.
Est-ce que pas l'intime de la planète isole C'est un exemple en fait qui appartient justement à l'intimité, voir comment il a trouvé sa solution dans Internet. Je suis le père d'un enfant qui a 6 ans. Et la première fois qu'on a eu un diagnostic, il était, on parlait de psychose infantile, ce qui en fait est un diagnostic qui ne veut pas dire grand chose, et on a longtemps été dans la difficulté par rapport à ce diagnostic et par rapport aux soins qu'on voulait appliquer à cet enfant. Et en fait, c'est ma compagne qui un jour a dit « J'en ai marre, on doit savoir ». Elle a pris Internet elle a tapé psychose infantile et elle a débouché sur toutes sortes d'informations qu'elle s'est mise à compulser d'une façon extrêmement intelligente. Et c'est ce qui nous a permis de savoir que le diagnostic de psychose infantile était une rareté française et que, en fait, partout dans le monde, on appelait ça autisme. Et depuis, ce petit garçon va beaucoup mieux parce qu'il est effectivement suivi par les personnes qu'il faut. Et le cycle continue puisqu'il arrive fréquemment que dans l'écriture du journal, du bloc-notes des ordres, j'en vienne à parler de lui et de nos difficultés, de nos avancées. Et c'est quelque chose qui, en fait, vient nourrir les personnes qui nous ont soit nourris au début ou soit qui n'ont pas encore été nourries de ces informations qui sont, en fait, tout à fait précieuses. Donc, il y a je pense, si je devais donner un exemple extrêmement positif, ce serait celui-là. Sachant que je suis aussi capable, je viens de vous donner des exemples négatifs, la Wikipédia est un exemple extrêmement négatif. Mais la compulsion de beaucoup de données sur un sujet sur lequel vous avez par ailleurs très peu d'informations vous permet en quelque sorte d'avancer sur quelque chose qui est très très difficile. Et par ailleurs, du fait de ma participation sur Internet, je reçois de temps en temps, c'est rare, des mails de parents comme moi, de parents autistes, qui deviennent ensuite des correspondants avec lesquels j'échange sur le sujet. Je ne vais pas couper le débat.
Pas du tout. Moi, je voudrais juste poser une dernière question qui nous est envoyée par SVP 11.1, en définitive, parce qu'elle figure dans le programme. Alors, je me suis dit, il pose la question, il faut bien la relayer, la répercuter. Et ensuite, donc, pendant les minutes qui nous resteront, nous engagerons un débat avec la salle. Mais quand je vous disais au début que je représentais et que j'incarnais le sens commun, jusqu'à votre intervention, madame, relayée par vous, Richard Figuier, j'étais vraiment persuadé que l'intime était un intime presque à œillères, fonctionnant en boucle, et qu'il y avait un côté « mettons nos gouffres ensemble, ça fera un bel abîme », et qu'il n'était pas question de sortir de cette espèce de cyclotron. Hein. Or, on explique que ce n'est pas du tout ça. Vous voyez que même le sens commun finit par comprendre. Cette table ronde devait permettre de débattre, effectivement on l'a vu, des effets du dévoilement de l'intime, mais elle sera aussi l'occasion de se demander, et voilà, voici la question, s'il s'agit là d'un phénomène pérenne ou d'une explosion passagère, et d'en esquisser les évolutions ultérieures. Alors, je vous ai évité la typologie, hein, hein, parce que je vais être question comme ça en réserve. Genre, ça ressemble plus à un poème, à un journal, à une nouvelle, que sais-je encore. Donc, on a évité la typologie, mais on évitera pas ça. Cette question sur est-ce que c'est pérenne ou est-ce que c'est une explosion passagère. Et puis, donc, troisième point du plan, qu'en est-il à vous d'esquisser les évolutions ultérieures. Eh bien, Richard Figuier, votre réponse là-dessus, voulez-vous esquisser, voulez-vous...
N'étant pas prophète, j'en sais rien, je pense que l'outil est là, donc tant que l'outil sera là, et à mon avis l'outil va continuer d'évoluer, donc les pratiques et tout ça vont évoluer avec lui. Comment répondre si quelqu'un a des solutions
Je ne sais pas, peut-être.
C'est assez pérenne, c'est-à-dire que ce serait une discussion trop longue. Il faut mesurer, moi je pense qu'on ne les mesure pas assez, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment des séminaires interdisciplinaires entre anthropologues, historiens, linguistes, logiciens, informaticiens, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que je pense que un des phénomènes majeurs qui est en train de se passer, c'est la rupture du régime d'écriture et d'oralité qui nous régit au fond depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire le règne absolu de l'écrit. Alors ce qui est compliqué, parce qu'Internet c'est de l'écrit aussi, l'informatique c'est de l'écrit, puisque c'est des protocoles. On parlait tout à l'heure de formats prescrits des blogs, ça c'est très intéressant. Donc c'est comme une matrice, une sorte. Donc il faudrait dégager des enquêtes de grande ampleur pour montrer ce qui se passe. Sur ce nouveau régime d'écriture et d'oralité, puisqu'on a dit que l'Internet, le courriel, etc., c'était de l'orature, Roger Lefebvre a lancé l'expression d'orature, donc de l'écriture orale ou de l'oralité écrite, on ne sait plus. Bon, là, ça change complètement nos régimes. On le voit, l'université est en plein malaise parce qu'elle ne sait plus comment valider. Est-ce qu'une thèse sur Internet, c'est valide? Est-ce que c'est pas valide? Alors il faut encore que ces pauvres thésards publient leur thèse sur papier, parce que sinon, dans une habilitation, ça va pas marcher, parce que ce sera pas... Si c'est sur Internet... Bon, tout ça est en train d'exploser, sans parler de la question des droits d'auteur, la question du texte. Qu'est-ce qu'un texte? On est face à le texte. À mon avis, on peut parler de texte qu'avec l'imprimerie, pas avant, pas au Moyen-Âge, il n'y a pas de texte au Moyen-Âge, il n'y en a pas... Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un texte électronique? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Il y a des questions abyssales, là, pour le coup, qui se posent, et on répond par fragments, on ne met pas nos forces en commun pour comprendre ce qui nous arrive. Parce que il nous arrive quelque chose, à mon avis. Mais quoi? Bien malin, qui le dira?
Alors, la réponse... dépend effectivement de contraintes, vous l'avez dit. D'ailleurs, je signale qu'en janvier paraîtra le prochain numéro de la revue Medium de Régis Debray avec une longue interview très intéressante de Pierre Assouline qui raconte comment il a construit son blog et qui parle de quelques-unes de ses contraintes en expliquant notamment que dès que le texte devient trop long, les gens s'évaporent. Enfin, là-dessus, il faut respecter effectivement certaines...
Oui,
certaines
les économistes ont montré, Jean-Michel Salin, par exemple, de l'EPSIM, qui dirige maintenant l'EPSIM à Montréal, a montré que les propositions de Google, en réalité, les internautes ne consultent que la première page. Il y en a 10 premières propositions. Ils ne vont pas plus loin. Donc on est dans des... Il faut faire attention que l'Internet ne se transforme pas en une concaténation, au fond, qui entraînerait cette impression de liberté, serait en fait contrainte par des moteurs de recherche. C'est central, la question des moteurs de recherche sur Internet, à mon avis. Parce qu'on n'a pas parlé du web invisible. À mon avis, c'était le sens de la question que tu dis partir tout à l'heure. Le web invisible, qu'est-ce que les moteurs de recherche nous cachent ou n'indexent pas? Donc, toutes ces questions, c'est... Mais là, personne n'assemble... Enfin, si, il y a des gens qui... Mais il ne faudrait pas qu'Internet devienne comme à la télévision, c'est-à-dire surtout ne zappez pas. Donc on enchaîne les images les unes aux autres pour faire que le téléspectateur ou l'internaute reste sur le site ou reste sur l'émission en question. Donc là, ce serait très grave, parce qu'en effet, l'outil qui a manifestement des virtualités extraordinaires serait complètement réduit.
Mais en plus de ces contraintes, les évolutions futures peuvent dépendre d'une sorte de morale du locuteur, de celui qui écrit, et là je ne vais pas vous demander dans ma tronche, si vigilant est-ce que la pérennité ne serait pas davantage assurée si, je ne vais pas parler des versois bien sûr, vous avez dit moi, mais s'il y avait une sorte de, vous savez, comme Dieu s'est retiré de sa création, comme l'océan s'est retiré, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y eût un peu moins de moi et davantage d'effets littéraires passant par des filtres.
Non, mais c'est pas le moi-moi qui est gênant ou l'égocentrisme, parce que de toute façon, c'est de tout temps la littérature a à voir avec l'intimité, avec le privé. Simplement, effectivement, tout à l'heure, vous disiez sur un blog, je ne vais pas parler de mon petit déjeuner. Dans les blogs que je lis, je vois beaucoup de choses qui y ressemblent quand même. Donc c'est aussi pour ça que j'avais cette impression négative. Je pense que si c'est évident, et Richard a raison, il faut qu'il y ait, alors sans utiliser une expression trop renflante, il faut qu'il y ait vraiment les états généraux. Il faut qu'en ce moment, les éditeurs ne parviennent pas à trouver une position commune sur la numérisation, sur les droits d'auteur. Chacun parle pour lui et teste dans son coin des possibilités de numérisation hors Google. Ce que, en tous les cas, pour revenir, moi, ce qui me paraît compliqué, c'est qu'il y ait des choses qui puissent être lues et prises au mot qui ne sont pas vérifiées, qui peuvent être quand même spécieuses, voire dangereuses. Alors, je roule peut-être pour moi, mais il y aurait quand même à imaginer des sortes de vigies ou d'éditeurs. Alors ça existe, il y a des modérateurs sur les forums, mais je crois quand même que ce serait bien qu'il y ait des éditeurs du net aussi, tout comme il y a des éditeurs pas seulement qui parlent le langage HTML, mais il y a aujourd'hui en plus toute une marchandisation du net. Je ne parle même pas des bannières ou des pubs que l'on vous propose dès que vous ouvrez un site. Mais effectivement, on permet aujourd'hui à qui veut de publier son livre. On fournit un service clé en main. Donc moi, ça me pose un certain nombre de problèmes parce que c'est... Pour qui, pourquoi, est-ce que ça va simplement faire plaisir à celui qui a écrit? Mais il y a parfois de réelles bombes. Enfin, moi j'ai entendu parler d'expériences d'historiens en herbe qui se mettent au service de particuliers pour leur permettre d'accoucher d'un drame, d'un traumatisme. Le livre est imprimé en ligne et ensuite on balance ça à l'entourage, à la famille. Enfin, c'est... Je trouve que ça manque peut-être, alors j'appelle pas une moralisation des esprits, je suis pas un entrepreneur de morale, mais je trouve quand même qu'Internet manque de filtres, mais sur le fond, c'est-à-dire pas de filtres marchands, parce que là malheureusement les filtres que nous avons sont des filtres économiques et des filtres marchands. Donc... effectivement, si je dois changer de boulot, eh bien, je me verrais bien éditeur sur le net. Mais voilà, comme quoi, vous voyez, là, vraiment, je suis allée très loin. Mais voilà, c'est tout. Enfin,
en tout cas, vous avez vu comment un débat est un mécanisme d'horlogerie très précis, puisque l'on est arrivé là. Hein. Mais il vous reste donc, il nous reste plutôt à vous entendre d'abord vous-même. L'ordinologie, je me tourne vers votre boule de cristal par rapport à la question posée.
En deux points, pour les blogs en particulier, moi je pense que c'est un tel phénomène que ça ne peut s'amplifier avec des évolutions qui toucheront à l'outil, c'est-à-dire à mon avis plus d'immédiateté encore dans le poste. Maintenant on poste, souvent on rentre chez soi pour poster, ou on poste au bureau, faut pas le dire, mais bref. Et là, on pourra poster dans le bus ou avec des outils qui sont beaucoup plus. Avec des captures sans doute d'images. Qui sont déjà dans ce téléphone portable, mais qui seront beaucoup plus immédiates, etc. Donc je pense qu'il y aura un emballement, sans doute au détriment du texte. Là, je parle vraiment des blogs journalistiques. Après, on parlait tout à l'heure effectivement d'autres types de blogs, on parlait des blogs professionnels. Moi, je connais un très bon blog de libraire aussi, Litote, ou des blogs de critique comme Eric Dussert. Je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vont s'approprier l'outil et qui vont faire des choses comme ça complètement détournées. Et ça de plus en plus, en allant même trifouiller dans les codes, etc. Je crois que ça va vraiment s'amplifier. Ensuite, pour le mouvement d'Internet et de la diffusion de l'écrit par des moyens numériques, effectivement, on parlait des questions marchandes et économiques. Je crois que là aussi, on ne peut que s'acheminer vers des solutions d'écran. Il suffit, moi j'ai des petits cousins et des neveux et des nièces, il suffit de voir un môme de 5 ans devant un écran pour comprendre que son rapport au monde passera par l'écran, même son rapport à l'écrit. Voilà. Je pense qu'il y a une petite mutation à laquelle s'attendre.
Philippe de Jonquière, moi j'aurais aimé à la fois entendre votre réponse, et puis ça serait peut-être bien qu'on puisse projeter. Là, je vois, votre site est là, Désordre. Est-ce que vous ne pourriez pas nous répondre? Alors, vous êtes capable de faire deux choses à la fois, contrairement au président Gérald Ford. Hein. Donc si vous pouviez nous répondre non pas faisant une visite guidée du site, mais en nous donnant à voir. Nous sommes entre nous, il y a 100 personnes.
Le point est que l'humain n'est pas derrière. Il y a quelqu'un qui doit brancher.
Le passage
qu'il
a sur cet écran, il n'est pas là. Et ça, je ne sais pas comment on passe le.
Ah bon.
C'est l'eau qui passe.
Il y a quelqu'un.
Ça va venir. Alors peut-être d'abord l'ultime réponse. Je suis très embarrassé pour produire une réponse. Ça fait 10 ans que je pratique Internet.
Et depuis 10 ans, c'est une question qui intervient beaucoup, c'est de savoir quel va être le futur. Et depuis 10 ans, en fait, ce que je lis ne se vérifie pratiquement jamais. Donc, je suis vraiment invité à la modestie pour ce qui est de prévoir le futur. Il y a, sur la pérennité, je crois qu'il y a une chose qui existe déjà, c'est que ça fait 10 ans qu'il y a de nombreuses pages HTML qui sont produites dans le monde, et je n'ai pas connaissance de véritables tentatives d'archivage de ce qui présente un intérêt. Je sais que la BNF réfléchit, et je sais qu'elle réfléchit depuis très très longtemps. C'est dit sans malice parce que à chaque fois que moi-même je réfléchis à cette question, je m'aperçois que c'est insoluble. Les paramètres de ce problème sont sans cesse changeants et ils sont généralement plus nombreux que les équations dont on dispose. Donc c'est très, je pense que c'est assez compliqué pour ce qui est de la pérennité. Je crois qu'il y a malgré tout une acceptation de la part des individus qui se produisent sur Internet comme moi que de toute façon le contenu que l'on produit n'est pas pérenne effectivement. Maintenant vous dire comment je suis arrivé d'un statut de photographe qui faisait très très attention à bien mettre ses tirages dans des boîtes dans lesquelles il n'y avait absolument aucune acidité, au fait que maintenant je produis des choses qui n'ont pas une très grande pérennité a priori, je ne peux pas vous dire quel est le mouvement de pensée qui conduit de l'un à l'autre.
Bien, parce que vous avez montré qu'il y a un grand progrès par rapport au latin, c'est que désormais les écrits volent, on vient d'entendre. Est-ce que vous pourriez nous en montrer quelques-uns qui ne sont pas forcément pérennes?
Alors, donc là, vous arrivez directement sur la page d'accueil du site, qui donc là ne ment pas, qui désordre.net, et qui en fait est une. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le plan du site. Et qui est assez. Enfin, voilà. Alors, évidemment, le premier sentiment, c'est d'être un petit peu perdu. Ça, c'est un bon point de départ. C'est un point de départ qui permet d'accéder, je dirais, aux pages nœuds du site. Vous avez notamment, je ne sais pas, par exemple, une vision de l'atelier de production du site. En fait, c'est le garage dans lequel je travaille. Et donc, si vous prenez... ce que Vollard appelait la cursivité, c'est qu'effectivement, je finis toujours par me montrer un petit peu quand même dans la production de mon travail. Ensuite, vous pouvez, là par exemple, dans cette boîte-là, qui sont contenues les photos des livres. Alors, si vous cliquez là, vous avez, la collection est vraiment excellente. Hein. Et vous aboutissez à ma bibliothèque et dans laquelle vous pouvez. Un exemple frappant, vous avez par exemple ceci, vous pouvez décider de. Voilà, c'est une photo d'Anna Collins parce qu'on a cliqué sur le livre d'Anna Collins, qui a une photo de la même. Là, vous avez mes lignes, donc je vous ouvre le livre sur les lignes.
Oui, il faudrait qu'on puisse, si je voulais jusqu'au bout de la logique de l'ordre bouger, qu'on puisse, quand on clique, voir vos notes de lecture et comprendre comment vous avez appréhendé un tel livre.
Vous savez, le problème, c'est que le site est très très étendu. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'en faire le tour très effectif. Là, je me suis laissé emballer. On va revenir quand même sur la partie qui nous occupe le plus. C'est que il y a le bloc-notes du désordre, qui est en fait donc ce pourquoi j'ai été invité finalement. Là, vous avez le journal en ligne. Par exemple, hier, j'ai eu la possibilité d'assister à la répétition générale du Mandarin merveilleux de Bartok à la salle Pleyenne. Je l'ai enregistré, c'est pas très bien, je l'ai enregistré, donc on peut l'écouter, mais là, on sait qu'il n'y a pas le son. Là, vous avez le récit du déjeuner que j'ai eu avec Patrick et Laure mardi dernier, et les questions que ça a suscité. Et puis, ben voilà, je pense que c'est qui était ici aussi, m'avait soumis un questionnaire, alors donc j'ai répondu. Donc ça, vous voyez, bon, alors ça c'est un exercice auquel je me livre toutes les semaines, c'est-à-dire que je vais travailler à Clermont-Ferrand tous les week-ends, et donc dans le passage du train, je passe systématiquement devant un point que je me suis donné, c'est un point que je ne peux pas rater, c'est la centrale nucléaire de Neuvy-sur-Loire, que je prends systématiquement en photo. Et à chaque fois, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc là, c'était le. Et à chaque fois, je me pose la question à quoi tu penses. Et donc, je réponds à la question à quoi tu penses. Je fais mes photos et ensuite, je rabats la tablette et j'écris sur une feuille de papier ce à quoi je pensais au moment où j'ai pris cette photo. Voilà, c'est un texte un peu long, mais je vous assure que des fois, c'est plus court. Et puis, en fait, on peut traverser le journal de semaine en semaine, en fait. Donc ça, c'était la semaine d'avant. Donc là, j'étais en train d'écouter de la musique parce qu'on m'avait prêté un baladeur. C'était tout nouveau. Si je clique là-dessus, on a la musique que j'écoutais.
Et puis, il y a aussi la semaine de Balthazar.
Alors, la semaine de Balthazar, ça, c'est un petit phénomène informatique.
Balthazar, c'est à cause de l'âne de Bresson ?
Non, c'est au hasard, Balthazar.
Oui, donc c'est ça.
Oui, c'est ça, oui.
C'est pas le prénom d'un ami d'un...
Non, pas du tout. Non, c'est effectivement ma semaine. Si je quitte là, je vais composer une semaine fictive qui sera faite d'un lundi de 2003 avec un mardi de février 2006, un mercredi, voilà.
Ben, c'est une sorte de recomposition
calendroscopique
intime.
Voilà. Et donc, je suis en train de mettre au point avec la personne qui m'aide beaucoup à la réalisation du site, qui est agent informaticien, qui s'appelle Julien Kirch. Et on est en train de mettre au point un système où on pourra ensuite pour dire bon, bah, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé le 22 mai, par exemple. Et là, on va sortir tous les 22 mai, il y a depuis 5 ans. Et donc, ça va composer une autre vision du journal, en fait, une vision transversale et perpendiculaire.
Et là, effectivement, Patrick, voilà, pour avoir des statistiques intéressantes, hein, savoir, non pas sur les 75% des gens qui ont entre 14 et 25 ans, mais finalement, vous tenez, on découvrira que l'intime vous taraude davantage en mai.
Oui, c'est possible, on pourra,
mais
vous savez, il faudra beaucoup de temps pour faire ça, il y a vraiment beaucoup de contenu. Le site à l'heure actuelle est constitué de 45 000 fichiers, je crois, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 10 000 pages à lire véritablement. Et le cheminement au travers de toutes ces pages est vraiment compliqué. C'est fait un petit peu pour embêter le lecteur, pour l'obliger à franchir des étapes, à se risquer à aller chercher certaines choses. En général, on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais on trouve ce qu'on ne cherchait plus. Voilà. Alors vous avez, ça c'est la partie écrite de mon journal, et puis vous avez également la partie photographique de mon journal, qui est ici. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, comme je suis photographe, je fais des photos et je montre.
Et le son que nous ne pouvons pas entendre ici est lié uniquement à la partie écrite ou également à la partie photo ?
En général, à la partie écrite. Hein. C'est plus rare que. Bon, là, vous avez cette ville de Clermont-Ferrand. Donc là, je suis dans le train. Si vous cliquez là, vous avez effectivement le fameux à quoi tu penses. Hein. Là, je suis au niveau 24, 23. Donc là, vous avez par exemple une rencontre avec François Bon. Mais il y a une véritable volonté de mélange, c'est-à-dire que cette journée est assez significative. Donc je suis allé déjeuner avec mon ami François Bon, ensuite je suis allé voir une exposition, et quand je suis rentré chez moi, j'ai donné le main à ma petite fille. Et tout ça tient dans une journée finalement. Alors maintenant, pour répondre à votre question la question que j'imagine que vous allez me poser, c'est où est-ce que ça s'arrête ?
Le petit rentre. Hein.
Où est-ce que ça s'arrête ? Je pense que ça s'arrête au fait que, par exemple,
Sur cette semaine-là, vous avez par exemple une lettre ouverte à M. Broccoli. M. Broccoli est mort il y a une dizaine d'années, c'était le producteur de James Bond. Et je suis très déçu par le dernier James Bond, donc je vais écrire une lettre ouverte à James Bond. C'est ce qui fait ma journée. C'est certain que ma journée n'a pas été entièrement monopolisée par cette lettre, ni même pour l'écrire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une partie de ma vie qui n'est pas folichonne, pas palpitante, et voilà, et même ça, ceci dit, c'est pas forcément. Voilà. Alors, c'est écrit là, vous avez la musique de James Bond.
Ah,
mais joué par quelqu'un, enfin, un musicien, par rapport à ce que vous écoutez aussi. Voilà. Alors, ensuite, vous avez l'empilement des archives. Donc, en fait, ce sont les deux cartes de mémoire, et on peut les retourner, et en les retournant, on accède à différentes semaines. Donc, pour chaque carte, vous avez ici, vous avez une semaine, et vous avez toutes ces semaines-là, en fait, puisque ça...
C'est
ça,
une réussite, non ?
Ça démarre le 5 mai, si je me souviens bien, voilà, c'est ça, ça démarre le 5 mai. Au début, j'étais un peu... j'apprenais, quoi, hein. C'est le début. Mais on peut les voir, encore, voilà. Et revenir à la page d'aujourd'hui.
Donc, je posais une question sur l'avenir, nous avons une réponse sur le passé, ce qui est tout à fait logique. Mais non, oui, et en même temps, je trouve ça très intéressant parce que ce tiraillement, vous le personnifiez entre le passé et le présent, puisque votre site, évidemment, ne comporte pas l'accent aigu, hein, deux ordres.
Non,
mais en revanche, vous avez très...
Je suis bloqué par les règles internationales.
Et en revanche, je m'attendais que vous étiez à cheval sur une règle pas du tout internationale, mais une règle que peu de gens connaissent, qui est celle de la particule immobilière flamande, et donc votre D avec une majuscule, hein, que les choses soient claires. Donc voilà, on passe de la ptose d'accent aigu au maintien de la majuscule, ce qui prouve que vous occupez une large palette. Donc avant de nous quitter, on peut se quitter tout de suite, hein. Mais avant de nous quitter, s'il y avait quelques questions, elles seraient les bienvenues. Monsieur.
Oui, vous m'entendez, là ?
Non,
peut-être.
Continuez à parler, ils vont régler.
Ça y est, là.
Non, je ne peux pas.
Vous m'entendez ?
Bien, vous m'entendez ?
Ça y est.
Oui, bon. Bonsoir. Bon, déjà, ma question s'adresse à la partie gazeuse de la table. Je pense que Philippe de Jonquière, moi personnellement j'apprécie énormément son site, je pense que dans 10 ans on y fera référence, comme aujourd'hui on peut faire référence à Réno pour le cinéma. Il y a vraiment des grandes nouveautés dans son site, des trouvailles, enfin bon, c'est vraiment un moyen d'expression dont il explore toutes les nouveautés. Alors ma question est un petit peu... basique. Lorsqu'un écrivain publie un livre, il va avoir un éditeur, et a priori, lorsqu'il vend les livres, il est rémunéré. Beaucoup d'écrivains se plaignent de ne pas l'être assez, mais enfin, a priori, ils le sont. Lorsque l'on fait un site ou un blog, aujourd'hui, en tout cas, il y a une gratuité. C'est-à-dire que ça ne passe pas par un système économique de vente. Et je voulais savoir comment, Philippe de Jonquière, vous vous placiez par rapport à cela. Vous me direz que vous n'avez pas le choix, puisque vous avez un travail à côté, et que, évidemment, on sait bien que ce n'est pas votre site qui vous rémunère. Mais comment vous vous placez par rapport à cette idée de gratuité ? Est-ce que c'est pour vous une chose fondamentale, importante par rapport à votre site ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez modifier si vous en aviez la possibilité ?
Non, je crois que le principe de gratuité est central. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis sorti des Arts Déco. J'ai dû vendre 5 ou 6 photos. Je n'en vivrai jamais, je le sais. Et donc je choisis, il y a une vingtaine d'années, de gagner ma vie autrement que par ce qui me tenait véritablement à cœur. Et je pense qu'il y a du pour et du contre, comme dans toute situation.
Le pour, c'est que dans le cas présent, je suis affranchi de toute contrainte, de toute contrainte matérielle et commerciale, de toute logique commerciale. J'ai pas de compte à rendre à quiconque sur le contenu du site. Hein. De toute façon, je dirais qu'il y a cet esprit-là, parmi les gens qui travaillent sur Internet, qui est une logique de générosité. Au tout début d'Internet, ce qui était assez édifiant, c'est que les institutions ou même les sites d'éditeurs n'avaient pratiquement pas de contenu sur Internet, au contraire de particuliers qui mettaient admirablement à profit leur temps libre pour donner ce qu'ils avaient à donner, en quelque sorte. Je pense que je me situe toujours dans cette logique-là.
Oui. On peut par exemple imaginer qu'il puisse arriver un jour une organisation qui rémunère les gens, enfin les personnes qui font des sites, comme par exemple ça peut exister pour la SACEM, pour qui rémunère les chanteurs ou les personnes qu'on fait de la musique qui passe dans les lieux publics, etc. On peut imaginer par exemple un système comme ça qui pourrait exister. Comment vous situez-vous par rapport à ce système? Est-ce que vous êtes pour?
Par rapport à la logique de droit d'auteur, je suis tout à fait opposé. Dans le sens où je crois que les droits d'auteur ont eu une logique à un moment, que je ne pense pas que cette logique soit encore d'actualité, pour deux raisons. C'est que d'une part, effectivement, le contenu est en train de devenir quelque chose de terriblement immatériel et donc par conséquent d'être véhiculable beaucoup plus facilement. Et d'autre part aussi, parce que je pense que de toute façon, c'est peut-être triste à dire, mais il n'y a pas d'auteurs en France qui vivent de leur plume, très très peu. Il y a très peu d'artistes contemporains qui vivent de leur travail. On vit aussi dans une société où le public pour un tel travail se raréfie. Je pense effectivement que la logique de droit d'auteur, sur Internet, elle est caduque, ça c'est certain.
Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la question totalement à rebours et se demander si, en définitive, Internet et les blogs ne sont pas une démocratisation de cette notion éminemment bourgeoise du 19e siècle qu'était l'Otium, O-T-I-U-M, vous savez, ce temps libéré du travail qui permettait un bourgeois ou un rentier de se demander pendant 15 ans de sa vie si Madame de Sévigné était passée par Pontivy. Voilà, ça occupait une vie. Hein. Et en définitive, pourquoi aller chercher modèle.
Mon point de vue est un peu différent pour ce qui est, de la reconnaissance du travail que je peux faire et que d'autres font sur Internet. Je suis médusé de voir la richesse de certaines ressources sur Internet, de certains travaux d'artistes et le manque complet de reconnaissance que ces artistes peuvent avoir. Internet existe, dans son expression actuelle depuis une dizaine d'années. Je n'ai pas connaissance que les centres d'art contemporain de notre pays se sont portés vers des auteurs, vers des artistes du web pour leur proposer une conservation de leur travail ou une exposition sous un jour différent, et alors que ces mêmes musées se sont encombrés de très mauvaises peintures dans les années 80, par exemple. Garou, Schnabel, enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du mauvais genre. Je veux dire, on produit quelque chose sur Internet, on est rapidement stigmatisé comme appartenant effectivement à un genre dangereux. Mais ce sont des vieilles, sont un petit peu des vieilles lignes. Vous savez, c'est un peu au tout début d'Internet, combien de fois on entendait. Les gens venaient de découvrir, ils disaient, chaque fois qu'on va sur Internet, on n'arrive pas à tomber sur des sites de fesses. Et Mais les gens oubliaient de préciser que pour ça, ils avaient tapé grosse fesse plus gros nichon. Alors effectivement, ils étaient tombés sur ce qu'ils cherchaient. Mais ça, je veux dire, ça fait 10 ans que je fais de l'Internet, je ne suis jamais tombé sur un site pédophile. Je veux dire, pourtant, on ne cesse de me dire que la prolifération des sites de pédophilie, bon, elle existe, j'en suis convaincu, mais je veux dire, moi n'étant pas public de ce genre de choses, je ne l'ai jamais rencontré.
J'avais une question.
Ah, alors, question partie. Ça sera d'ailleurs une question.
Et deux remarques. Oui. Au fond, on est arrivé à travers à la fois votre témoignage, où ça a émergé, et puis ce dernier point, la question du droit, qui me paraît à la fois très importante dans ce que ça veut dire que de reproduire par exemple la photographie et de la donner à voir sans droit, ce qui est un vrai problème, mais c'est au-delà de ça, c'est le droit d'intimité. Parce que dans l'histoire de l'intimité, il y a toujours eu immédiatement une protection assez forte, de protection donc des gens les moins connus. Hein. Vous savez que le secret de la correspondance est en France une chose extrêmement forte. On n'en a pas parlé ce matin, mais c'est vraiment, on peut publier une correspondance où des noms de gens célèbres apparaissent, mais dès lors que ce sont des gens inconnus, ça devient très compliqué, et qu'on n'a pas leur rapport. Et là, c'est vrai que, en vous écoutant tous, je me disais, cette question d'éditer l'intime sur le web pose une réforme extrêmement importante de notre droit à l'intime. Et de notre droit aussi donner à voir notre intimité. Notre intimité, c'est la nôtre, vous photographiez, mais vous photographiez aussi votre enfant, etc., etc. François Bon, mais peut-être d'autres gens, etc. Donc ça, c'est la première question, qui est pour moi une question large. La deuxième, c'est qu'on parle de blog personnel, et on apprend en fait à 17h40, que c'est un, et c'est ça qui m'intéresse, que c'est un travail aussi collectif. Et ça, je trouve que donc c'est une intimité partagée. Et ça, je trouve ça très très important, et ça recoupe ce qui a été dit tout à l'heure concernant des communautés, concernant des savoirs partagés, concernant des logiciels libres, tout ce côté très libertaire sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'il fait effectivement question sur le droit. Et qui est aussi, et c'était la question d'Antoine Béraud, extrêmement intéressant sur le devenir de ces lieux-là, et sur peut-être, et c'est pour moi la note très positive, très intéressante, sur ces espaces, c'est possible, sur ces imaginaires nouveaux qui sont très désordres, très chaos, dirait d'autres, et que je trouve passionnant. Mais j'aimerais un peu que vous réagissiez à ça, sur le côté pas seulement libertaire, mais communautaire, collectif, et sur ce rapport transgressif qui me paraît fort. Alors il ne faut pas vous attendre à aller au centre Georges Pompidou. Ça, je trouve que c'est très contradictoire, si vous voulez. Je suis complètement convaincu par votre. Mais alors, franchement, où aller au Palais de Tokyo? Il faut savoir ce qu'on veut faire.
Je crois que je ne me suis pas exprimé pour moi-même sur ce sujet, pour ce qui était de Bobo. Je sais la place qui est la mienne, et je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de tellement extraordinaire que ça devrait être conservé dans un musée. C'est pas ça que je dis, c'est que je vois par contre d'autres choses sur le web qui elles mériteraient tout à fait d'être conservées. Donc ça, c'est une première précision. Sur la question de la communauté, vous avez raison d'insister. Je veux dire, depuis que le site existe, je ne compte pas les mails de gens qui me proposent un coup de main. Pour des solutions, au départ c'était des solutions techniques. Quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde et j'ai eu bien du mal. Il y avait des gens qui avaient davantage d'expérience et qui m'ont dit mais si tu veux que ton image soit décalée de 12 pixels par rapport à ton texte, il faut que tu utilises tel balise, voilà, des choses comme ça. Il y a un réel échange de ce côté là maintenant sur la question de la transgression. Ça serait plutôt de l'ordre de la désobéissance civile. Je pense que, par exemple, cet hiver, il y a le texte sur les droits audiovisuels et les droits voisins qui n'a pas été débattu à l'Assemblée, en fait, qui a été forcé à l'Assemblée. Ce texte est un mauvais texte. Il nuit beaucoup à beaucoup de gens. Effectivement, là, on peut être dans une logique de désobéissance civile.
Juste le mot de la fin, je voudrais le donner à Richard Figuier par esprit de contradiction, parce qu'il voulait s'en aller, mais surtout parce qu'il me semble que la question que posait Philippe Barthier lui revenait. Car en définitive, les deux questions, c'est il y a un droit de la tribu, il faut donc inventer un droit tribal en quelque sorte, ça recoupe quelques-unes de vos réflexions, et la deuxième question, c'est pour résumer de façon un peu journalistique, je est un réseau. Et là aussi, je trouve que vous étiez presque la personne idoine et appropriée pour répondre. Donc ces deux questions, puis partir, et après, vous pouvez partir votre rendez-vous, ça sera fini.
Sur le plan juridique, Philippe a raison, il est évident que, là encore, on est dans un droit, on est régi par un droit d'auteur, un fameux droit d'auteur qui a été construit au XVIIIe siècle. Bon, essentiellement pour l'écrit, enfin. Pour d'autres. C'est évidemment, les conditions de construction de ce droit de l'auteur, par exemple la lettre de Diderot sur la librairie, hein, qui dit qu'il faut absolument que le libraire soit l'exclusif propriétaire du texte que lui donne l'auteur, parce que sinon il ne pourra pas vivre, il ne pourra pas continuer à publier des textes, etc. Tout ça, aujourd'hui, est complètement bouleversé. Mais c'est plus qu'un bouleversement du droit, c'est un bouleversement même des concepts majeurs du droit. Qu'est-ce qu'un auteur? Et on a vu que là, c'était une œuvre collective, finalement, aussi. Donc, est-ce que c'est encore l'ordre du droit? Moi, j'aurais envie de dire... Un peu comme la question de l'archive, tout à l'heure c'était très intéressant, la pérennité, la question de l'archive, mais c'est plus l'ordre de l'archive. L'archive, c'est un ordre très précis qui constitue l'archive comme document qu'on va pouvoir reproduire dans une situation de conflit, etc. Bon. Là, on est plus dans l'ordre de l'archive, on est dans autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de qualifier cette autre chose, de comprendre cette autre chose. Donc sur le plan juridique, on l'a bien vu, la loi sur le droit d'auteur, a été un cafouillage épouvantable, même du point de vue juridique. Donc, on ne sait pas où on en est, parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas reconstitué de concepts nouveaux, ou constitué de concepts nouveaux. Sur le droit à l'image, enfin, toutes ces questions juridiques, elles se posent de manière nouvelle. Et il faudrait commencer à y travailler. Mais là encore, on reste encore dans le. Sylvie Gillet l'a dit tout à l'heure, les éditeurs restent accrochés à leur. Et c'est normal, puisqu'ils sont dans une économie qui vit de ça. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc là, il est évident que des problèmes abyssaux, là pour le coup, mais vraiment abyssaux, se posent à nous. Bon, on ne va pas régler ça. Le droit d'auteur, c'est une question qui a émergé, disons, au début du XVIIIe siècle, et puis ça s'est réglé avec Beaumarchais à la fin du XVIIIe, quasiment. Donc,
1777.
Oui. Donc, on a un siècle devant nous pour régler toutes ces questions.
Ben écoutez, ça sera le mot de la fin. C'est une tautologie chère au général de Gaulle que citait avec gourmandise Jean-François Revel dans le style du général. C'était « Ce qui reste à faire, reste à faire ». Merci beaucoup.